right, wind 250 degrees, 1 feet on
clear.
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 Clear. Clear.
Clear. Clear. Clear. Clear. Clear. Clear.
Salut à toi et bienvenue, ça me fait très plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'expérience Shiban après cette longue pause de 3 mois. Cette introduction va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est pour te donner quelques news et ça durera 2 minutes maximum, promis. Pour celles et ceux qui nous découvrent, l'expérience Shiban c'est un podcast où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés d'aéro. Moi je m'appelle Sébastien, Seb, je suis l'animateur de ce podcast et je travaille avec une équipe d'amis pour te proposer ces épisodes et bientôt d'autres contenus tels que des courts-métrages vidéo. Comme je le disais, l'épisode d'aujourd'hui marque la fin d'une pause de 3 mois. Les vies des membres de l'équipe ont pas mal bougé pendant cette période et on a voulu profiter de notre temps libre pour faire évoluer le podcast en coulisses. On a notamment une nouvelle charte graphique dont l'élément le plus visible est notre nouveau logo et on a bien avancé sur plusieurs projets en parallèle. On était d'ailleurs récemment à Aeroscopia, superbe musée aéronautique toulousain à Blagnac exactement, le week-end du 21 et 22 mai 2022. On y a animé ce qui ressemblait un petit peu à un plateau radio où on interviewait des invités sur une vingtaine de minutes avec la participation du public. Alors personnellement j'ai trouvé ça très sympa et si jamais tu y étais ou que tu en as entendu parler, eh bien, n'hésite pas à nous faire un retour en nous contactant sur les réseaux sociaux ou via notre site internet xpshiban.com. Les enregistrements des interviews qu'on a enregistrées pendant ce week-end-là arriveront en ligne dans les semaines à venir. Alors, autre nouveauté, l'expérience Shiban a proposé ses nouveaux services vidéo pour monter un after movie de l'événement. Le résultat sera disponible bientôt et n'hésite pas à nous contacter si t'es intéressé et que tu penses avoir besoin d'une belle vidéo pour promouvoir un événement lié à l'aéro ou une belle machine tout simplement. Bon allez, assez de blabla pour le moment, 2 minutes maximum j'ai dit, c'est l'heure de l'épisode qu'on attend, que moi j'attends en tout cas depuis exactement 3 mois aujourd'hui, le 1er juin. C'est parti pour cet épisode 28 de l'expérience Shiban et mon équipe et moi, on espère tous que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Dans l'expérience Shiban, on a eu l'occasion de parler un petit peu de voilure tournante avec Marielle dans l'épisode 16. On a aussi parlé de marine nationale et d'aéronaval dans l'épisode 2 ainsi que dans l'épisode 23 avec Étienne. Mais l'occasion de mixer les deux ne s'était jamais vraiment encore présentée. Bon voilà, aujourd'hui c'est chose faite avec Thomas, pilote de Panthère dans la marine nationale. Bonjour Thomas, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour enregistrer cet épisode.
Bonjour Sébastien, ravi d'être là également.
Alors, ancien de la flottille 36F, dans laquelle tu as fini commandant, tu as notamment participé à des opérations de lutte contre le narcotrafic dans les Caraïbes, contre la piraterie au large de la Somalie, de la lutte anti-navire, du sauvetage en mer, etc. Enfin, je vais m'arrêter là, tu nous en parleras un peu plus en détail pendant l'épisode. Aujourd'hui, tu es de retour sur les bancs de l'école, parce que tu fais un exécutif MBA à l'école de guerre, et ça te laisse, pour notre plus grand bonheur, un petit peu plus de temps et de dispo pour enregistrer cet épisode avec moi aujourd'hui. Alors on va commencer dès maintenant, je vais commencer avec ma première question. Beaucoup de gens se demandent combien de temps on met à devenir pilote. Alors, c'est pas évident de donner un timing déjà dans le civil, tant les parcours sont variés, mais dans les parcours militaires, l'info est encore plus compliquée à trouver. Alors dans un premier temps, je vais donc te demander si tu veux bien de te présenter succinctement, de nous raconter ton histoire, et ensuite, ou peut-être en même temps, de nous donner une timeline assez précise de ton parcours et surtout de ta formation. Quels ont été les grands jalons entre le jour où on t'a dit que tu étais accepté à l'école navale et ta première mission opérationnelle ?
Exactement, c'est une excellente question qu'on se pose tous, surtout quand on est du côté spectateur dans les meetings aériens. On regarde tous ces pilotes, toutes ces personnes en combinaison, et on se demande combien de temps ça prend. C'est une vraie question. Mm-hmm. Alors moi, je m'appelle Thomas, je suis officier de marine, j'ai 38 ans. J'ai fait l'école navale après avoir fait maths sup, maths spé et avoir grandi en Essonne. À l'école navale, je voulais être pilote. Enfin, dès que je suis rentré, je voulais être pilote. Ça fait partie du rêve de gosse que je voulais accomplir. Et donc, j'ai passé les sélections en vol. Ce sont des sélections qu'on mène d'abord sur rallye, donc un petit avion de tourisme qui permet d'apprendre les bases du pilotage. Et ensuite, la sélection en vol se fait sur Cap 10, avion de voltige. On peut arriver sans aucune connaissance en vol. Alors, j'étais en concurrence avec quelqu'un qui avait déjà 1000 heures de vol et qui avait un PPL. Moi, j'avais rien du tout. Et au final, ce qui compte, c'est d'essayer de réaliser les exercices le plus rapidement possible et suivre la progression que les instructeurs nous donnent. Voilà, c'est d'essayer de savoir si on est capable d'apprendre vite le métier de pilote. Donc, j'ai été sélectionné pour être pilote d'hélicoptère. Embarqué. J'expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. Et après les 4 ans d'école navale, donc pendant lequel j'ai effectué ma sélection, eh bien, je suis parti en école de pilotage. Les écoles de pilotage hélicoptère, elles sont interarmées et ça commence à Dax au sein de l'école d'application, de l'aviation légère de l'armée de terre, où sont réunis les officiers de l'armée de l'air et de l'espace, de l'armée de terre, de la marine nationale, mais également de la gendarmerie. Moi, j'ai appris sur Gazelle, ça a duré 18 mois, et à l'issue de ces 18 mois, eh bien, je ressors avec des compétences civiles qui sont évaluées à travers le passage d'un CPL-H, donc le pendant du CPL-A, mais pour les avions, voilà, les puristes s'y reconnaîtront. Et ensuite, on part au LUC, donc c'est encore dans l'armée de terre, pour effectuer notre formation IFR, puisque les hélicoptères aussi font de l'IFR, même s'ils ne sont pas tous dégivrés, on peut quand même voler en couche, et c'est assez intéressant de voler en couche en hélicoptère, c'est assez différent de ce que peut faire un avion. Mmh. Ça dure entre 4 et 6 mois, et ensuite je suis passé à l'ENVEOC, à l'école de spécialisation des hélicoptères embarqués, où là, on apprend la spécificité du milieu aéromaritime et du métier de pilote d'hélicoptère dans l'aéronautique navale. Ensuite, et ça dure à peu près un an. Et ensuite, on fait nos choix pour pouvoir être ventilé dans les flottilles. Dans l'aéronaval, partie hélicoptère, il y en a un certain nombre. Il y a la flottille 31F sur Caïman, 33F sur Caïman également, la 34F qui est sur Dauphin, 35F sur Dauphin, et la 36F est sur Panthère. Et du coup, à l'issue de mon macaronnage, moi j'ai demandé... Donc le macaronnage, c'est une cérémonie pendant laquelle on nous remet le macaron tant rêvé, avec l'encre de marine et les deux ailes, qui marquent l'entrée dans la carrière de pilote. Donc c'est un peu la petite lumière au bout du tunnel pour tous ceux qui ont ce parcours là voilà. Et ensuite j'arrive à la flottille 36F, et là c'est pas fini encore, puisqu'il faut non seulement acquérir les qualifications sur la machine, et puis après commencer à monter en gamme avec des qualifications dans différents domaines assez spécifiques. Et après, c'est comme dans la ligne, en fait, on commence copilote, ensuite on finit commandant de bord. La seule différence, c'est qu'en fait, il y a une double couche. Il y a à la fois la couche fonctionnelle, copilote, commandant de bord, mais il y a également une couche métier, où on peut être lâché pour un certain nombre d'opérations, du combat naval au sauvetage en mer, en passant par la lutte contre le narcotrafic. En fait, ce sont des cursus qui s'additionnent les uns aux autres. Jusqu'à ce que j'obtienne toutes les qualifications, y compris celles d'instructeur, et ensuite j'ai commandé ma flottille. Et pour revenir sur ta question initiale qui était les jalons, combien de temps ça prend, grosso modo, pour être formé pilote d'hélicoptère, j'en ai pour 3 ans dans les écoles interarmées, et ensuite en unité, et il m'a fallu 4 ans pour passer de copilote à commandant de bord, et pour être qualifié toute mission, il m'a fallu 6 ans et demi. Donc c'est relativement long quand on met tout bout à bout. Je dis en blaguant que je suis docteur aéronautique, mais je suis pas le seul parce que du coup si on calcule bien, ça fait maths sup maths spé, 4 ans d'école navale, 3 ans d'école de pilotage, et je compte même pas les années de qualification, mais c'est un cursus qui est très long, et je pense que ça fait partie des qualités qu'il faut avoir quand on embrasse ce métier-là, être patient, voilà, et être capable aussi de gérer son effort sur un temps long. J'ai eu des copains qui du coup étaient très à l'aise au début, mais qui n'ont pas forcément suivi une courbe de progression optimale et qui à un moment se sont un peu essoufflés, d'autres au contraire qui sont partis lentement et qui ont accéléré ensuite. Donc l'endurance est une qualité quand on embrasse ce genre de cursus.
Et donc tu disais 2 ans de classe préparatoire, 4 ans à l'école navale, c'est des années pendant lesquelles tu n'entends pas vraiment parler d'aviation en fait.
Et ouais, tu as bien raison, c'est pour ça qu'il existe 2 cursus. Un cursus qu'on appelle cursus direct, où là on passe par une grande école. Et les cursus sont quasiment les mêmes que l'on embrasse une carrière de pilote dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air et de l'espace ou dans la marine. C'est-à-dire qu'on passe d'abord par une grande école militaire après avoir passé un concours à l'issue des classes préparatoires, mmh. ou une filière sous contrat. Dans la marine, ce sont des contrats de 10 ans et les conditions d'entrée sont assez simples. Il faut avoir entre 18 et 26 ans, bien sûr un bon niveau d'anglais, être en forme physiquement. Et puis là, on est uniquement sélectionné sur des critères psychotechniques et psychomoteurs et la vocation, c'est de servir comme pilote, alors que dans le cursus que j'ai choisi, la vocation, c'est de servir aussi comme chef, comme commandant. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'engage sur des responsabilités futures dans un domaine de spécialité. Voilà. Mais en effet, on n'entend pas trop parler de pilotage pendant toutes ces années, alors on ronge son frein. C'est pas forcément évident parce que quand on a entre 20 et 25 ans, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire quelque chose de concret. Mmh. On a envie d'être reconnu pour quelque chose que l'on sait faire. Et du coup, attendre, c'est pas forcément évident, en effet. Mais, mais vu ce qui arrive ensuite, ça vaut largement le coup.
Alors, on va en parler un tout petit peu plus tard de ce qui arrive ensuite. Merci déjà pour ce timing. Ça permet d'éclaircir pas mal de doutes. Alors, je te propose qu'on revienne sur la formation encore, mais sans forcément parler de timing cette fois-ci, vu qu'on vient d'en parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail des différentes phases, de ce que tu y as appris, mais aussi et surtout des difficultés associées? Ça peut être intéressant de décortiquer les éventuels échecs que tu as pu avoir, par exemple, ou que tes collègues ont pu avoir.
Alors c'est une excellente question en fait, parce qu'elle rentre en résonance avec des souvenirs que j'avais quand j'étais plus jeune. Bon, je me considère toujours comme jeune, mais c'est-à-dire que je me souviens dans les meetings quand je voyais les gens de l'autre côté, les pilotes de l'autre côté de la barrière, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'ils me donnent leur secret. Mmh. Leur secret pour y arriver et pour faire partie de cette communauté. Et je pense que toi aussi, tu as dû vivre cela. Et un certain nombre d'auditeurs passionnés qui ont réussi à franchir la barrière se sont également posé ces questions, c'est-à-dire quelle est la formule magique ? Qu'est-ce qu'on dit aux autres ? Qu'est-ce qu'il faudrait dire à celui qui veut absolument réussir pour qu'il réussisse ?
Alors, quelle est la formule magique ?
et finalement, on se rend compte que... Il y a un certain nombre de qualités qu'il faut détenir. Je parlais de la patience, parce qu'il faut faire preuve de patience. Les chemins pour arriver à un objectif tel que celui-ci sont assez sinueux, et du coup, il faut être capable de réguler son effort et d'être patient, parce que la route est longue. La deuxième qualité, je pense, c'est la volonté. Je crois beaucoup à cette volonté. Alors, ça sans doute faire sourire tout le monde, mais j'aime beaucoup la chanson « Envie d'avoir envie » de Johnny, parce qu'en fait, elle veut tout dire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui pêchent par manque d'envie, et celui qui a envie tout le temps, il s'en sort toujours. Et ça, c'est une qualité qui est fondamentale, c'est-à-dire d'essayer de cultiver cette curiosité, cette envie d'en découdre, cette envie d'y arriver, et franchement, elle mène à tout. Ensuite, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on embrasse finalement ce genre de cursus, c'est assez unique. Et en fait, c'est en contradiction avec tout ce que l'on a fait avant. Pendant toute la période scolaire, collège, lycée, primaire, même pour ceux qui font des études supérieures après, finalement, on a une relation professeur, élève, élève, copie, et ça s'arrête à ça. Et finalement, ce qu'on demande pour un pilote, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable d'exécuter des mouvements, des gestes, dans un environnement complexe. Et ça, c'est complètement nouveau. Ça, c'est complètement nouveau. Je pense que ça se rapproche beaucoup du travail que réalisent sur eux les grands sportifs avant de rentrer en compétition. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. C'est-à-dire être capable de fermer les yeux, de faire de l'introspection en disant « OK ». De se refaire son vol et se dire « Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai réussi ?» Et c'est assez étonnant parce que c'est quelque chose de tout nouveau, comme les qualités psychotechniques et psychomotrices, finalement, elles sont rarement évaluées, à part quand on fait du sport de haut niveau. Et tout d'un coup, il faut qu'on s'en préoccupe. C'est-à-dire, il faut bien être en phase avec son propre corps. Ça peut faire sourire ce que je dis, mais c'est pas forcément si évident. Et être capable aussi de se concentrer dans l'instant. C'est-à-dire que le pilote, il maîtrise un certain nombre différentes formes de tempéralité. Le futur, quand il prépare sa mission, son vol, le présent quand il est dans l'action et le passé lorsqu'il débrief. Il faut être capable d'embrasser l'intégralité du spectre, de ce spectre de temporalité, ce qui nécessite pas mal de concentration, d'introspection. Et c'est quelque chose que ne nous apprend pas forcément l'école. Je dirais que embrasser un cursus de pilote, c'est embrasser un monde nouveau. Voilà. Et faut avoir les qualités humaines pour pouvoir s'ouvrir aux autres, aux instructeurs, à ce qu'ils nous disent, mais également à soi-même pour pouvoir déceler nos propres erreurs, voire même les anticiper. Voilà. Ce que je dirais, c'est que tout le monde est capable d'être pilote. D'ailleurs, on retrouve dans les aéroclubs, pour en avoir fait un peu, des profils qui sont très divers, des tranches d'âge, des catégories socioprofessionnelles, des backgrounds universitaires qui sont très différents. Et je pense qu'on est tous capables d'être pilotes, à peu près. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne met pas tous le même temps pour y arriver. Et aujourd'hui, quand on s'inscrit dans un cursus de formation, quel qu'il soit, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le monde militaire, eh bien, forcément, il faut qu'on réussisse à raccrocher cette courbe de progression, soit parce que dans le milieu privé, eh bien, on paye une prestation pour arriver à un objectif, mais mine de rien, il faut réussir. Ils ont rationalisé cette progression, donc ça suit une logique temporelle. Soit dans le monde militaire, où finalement, on veut essayer de s'assurer que les pilotes militaires sont capables d'apprendre rapidement dans le temps imparti parce qu'on n'a pas plus de temps que ça à donner aux stagiaires et parce que la réalité ensuite en unité c'est que ça va assez vite et il faut être capable d'encaisser ce choc des informations et il faut être capable de les digérer.
Moi je trouve très intéressant les points que tu viens d'évoquer, mais est-ce que tu les as... Est-ce que tu as été confronté à un échec qui t'a permis de comprendre tout ça, ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure en discutant avec des gens, en te rendant compte de ce qui se passait autour de toi, etc.
Ben, en fait, j'ai échoué plusieurs fois et localement. Hein, on échoue, on cherche tous à faire des vols parfaits, à réaliser. En fait, on est des chorégraphes hein, quand on est en école, c'est-à-dire qu'il faut avec l'instructeur, on écrit la chorégraphie, et ensuite, il faut la réaliser sans aide, sans guidage à la voix, et même sans musique. Donc, ce qui n'est pas forcément évident. Et du coup, ça arrive, il y a des jours où on est moins en forme que d'autres, il y a des matières dans le vol où on est moins à l'aise que d'autres. Hein. Voler aux instruments, ce n'est pas du tout la même chose que voler à vue. Voler sous jumelles de vision nocturne, ce n'est pas du tout la même chose non plus. Enfin, du coup, le domaine est assez vaste. Et oui, ça m'est arrivé d'échouer. Et en fait, je m'étais jamais rendu compte à quel point on était tous aussi différents. Finalement, dans une salle de classe, on se rend pas forcément compte des différents tempéraments, mais avec le vol, en fait, on triche pas. On triche pas et les caractères se révèlent. Moi, j'ai des copains qui se sont jamais posé de questions. On leur a dit, tu fais comme ça, ils font comme ça, et finalement, leur esprit a jamais été pollué par des questions. Moi, j'ai une tendance à intellectualiser beaucoup de choses, ce qui fait que j'ai besoin de comprendre les choses pour pouvoir les réaliser. Et par exemple, mon mode de pensée, c'est un mode de pensée qui s'est révélé être difficile dans la progression, parce qu'en fait, c'est une progression qui exige beaucoup de réflexes. Il faut capitaliser beaucoup sur ce que l'on apprend en vol et très rapidement être capable de reproduire un mouvement. Moi, comme j'avais besoin d'intellectualiser souvent, eh bien, je prenais un peu plus de temps. Mais par contre, une fois que c'était intellectualisé, cette faiblesse en école est devenue une force quand je suis devenu instructeur, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus facile pour moi pour instruire. Et du coup, c'est marrant comme certaines faiblesses peuvent se révéler être des forces ensuite lorsqu'elles sont prises différemment. Mais oui, il y a des phases qui sont plus difficiles que d'autres. Hein. Moi, l'IFR, j'ai trouvé ça plus difficile que le vol à vue parce qu'on vit le vol à travers des instruments, par procuration. Et du coup, il faut être capable de se représenter une réalité que l'on n'a pas sous nos yeux. Et moi, le sens qui est assez développé chez moi, c'est la vue. Donc, me priver de vue, c'était délicat. Mais après, les formations sont bien faites, parce qu'en fait, elles sont en cercle concentrique. Au fur et à mesure, on élargit le cercle. On commence par un apprentissage de base. Et sur l'hélicoptère, c'est un apprentissage qui est particulièrement important, parce que comme... Je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais l'hélicoptère, il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est-à-dire que quand on touche à une commande, eh bien, il y a un effet secondaire qui induit sur une autre commande. Je vais prendre un exemple. Quand on tire sur le pas général, donc le pas général, c'est l'espèce de manche que l'on a à gauche. On n'a pas de manette des gaz hein, sur l'hélicoptère. Eh bien, lorsqu'on tire le pas général, on augmente le pas de toutes les pales. On augmente donc la portance, mais également la traînée. Qui dit traînée dit couple. Et donc, quand on tire sur ce pas général, l'hélicoptère va avoir tendance à venir, en fonction du sens de rotation du rotor, venir à gauche ou à droite. Et ce qui fait qu'il faut le contrer par une action au pied. Donc, très concrètement, moi, sur mon hélicoptère, je tirais de la main gauche, il fallait que je pousse sur le pied droit. Et en fait, cette gymnastique physique, du coup, il faut l'apprendre et ça fait partie de l'apprentissage de base. Deuxième cercle concentrique, le vol toutes conditions, donc le vol IFR. Et ça, c'est pas évident en hélicoptère, je trouve, par rapport à l'avion, parce que l'hélicoptère, il se déplace lentement. Et du coup, il est très sujet au vent. Quand on tourne ces hippodromes, du coup, on a des dérives assez importantes et on faisait tout, on passait systématiquement par le calcul. Donc, c'est pas forcément évident. Après avoir passé ce cercle du vol IFR, vol aux instruments, on passe au vol militaire, qui comprend plusieurs volets, notamment le vol très basse altitude, très grisant, parce qu'on vole sur un hélicoptère, on vole pas très vite, mais en fait la sensation de vitesse, elle est relative à la proportionnelle, elle est proportionnelle à la proximité des obstacles. Plus on est proche des obstacles avec une vitesse donnée, plus on a l'impression d'aller vite. Du coup, c'est un vol qui est très grisant, qui est assez dangereux aussi, puisque le pire ennemi de l'hélicoptériste, c'est la ligne électrique, bien sûr. Vol militaire, on apprend aussi à voler sous JVN. Alors pareil, c'est un vol qui est complètement différent. Pourquoi ? Parce que donc les JVN, ce sont des jumelles de vision nocturne, donc ce sont des intensificateurs de lumière, à ne pas confondre avec par exemple l'infrarouge, qui utilise du coup une fraction du spectre électromagnétique. Là vraiment, on intensifie la lumière, c'est-à-dire qu'en gros, on a des yeux de chat la nuit. L'avantage, c'est qu'on voit bien. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas l'intégralité du champ visuel. Vous savez qu'on voit tous sur 240 degrés. La vision périphérique joue un rôle très, très important pour le pilote parce qu'en fait, c'est cette vision périphérique, donc c'est-à-dire ce qu'on regarde pas fixement, mais ce qui est plutôt sur les côtés, c'est ce qui permet de se rendre compte d'une vitesse ou d'apercevoir dans son champ de vision quelque chose qui bouge. C'est la vision du mouvement, la vision périphérique. Et bien là, on nous en prive avec les jumelles de vision nocturne, puisqu'on voit à travers deux rouleaux de papier toilette. Donc, on s'imagine bien qu'on voit rien d'autre qu'à 30 degrés. Et il faut réussir à se représenter le monde à travers deux rouleaux de papier toilette. Donc, en fait, on compense en bougeant la tête latéralement pour se représenter, reconstituer au fur et à mesure du balayage l'intégralité du champ, enfin en tout cas une grande partie du champ. Donc ça aussi, c'est nouveau et c'est ça qui est intéressant dans le vol, c'est que finalement, le vol, c'est pas naturel pour l'être humain. On a tout un tas d'artifices pour réussir à voler, pour réussir à se repérer, mais il faut systématiquement apprendre et c'est un champ nouveau et ça, je trouve ça passionnant. Donc voilà, troisième cercle concentrique, le vol militaire, et quatrième cercle concentrique, le spécifique d'armée. Donc pour les marins, il s'agit de savoir treuiller sur l'eau, que ce soit sur un bateau ou directement à la surface de l'eau, savoir apponter, puisque nous on mène nos missions à partir de frégates, donc il faut qu'on puisse partir de ces frégates de jour ou de nuit et y revenir, c'est ce qu'on appelle l'appontage. On apprend ensuite de la tactique, la lutte anti-navire, la lutte anti-sous-marine, le contre-terrorisme maritime, la lutte contre le narcotrafic, etc. Donc il y a tout un tas de missions qui se rajoutent dessus. Et donc c'est quand même tout ça pour rassurer nos auditeurs, c'est-à-dire que quand on voit le produit fini, on se dit mais que c'est vraiment impressionnant et que détenir un jeu avec autant de cartes, ça peut faire peur, mais c'est assez bien fait puisqu'en fait on passe d'un cercle concentrique à un autre cercle concentrique et les acquis que l'on a obtenus après avoir fini l'évaluation du cercle concentrique précédent nous permet d'envisager sereinement le prochain cercle concentrique et c'est très bien fait. En fait, on y va petit à petit et c'est pour ça aussi que je dis que tout le monde peut y arriver. C'est pour ça, pour ceux qui nous écoutent, aller au bout de votre rêve, ça vaut vraiment le coup. Il faut juste être capable d'être patient, rigoureux et travailleur.
C'est vachement intéressant tout ce que tu dis et ça m'amène à... Alors j'ai deux questions qui sont venues comme ça en cours de route. Le premier, c'est le vol IFR en hélicoptère. Effectivement, ça me paraît comme ça pas forcément naturel. Comment ça fonctionne en termes de minima, par exemple, quand il faut aller se poser sur le bateau et que la météo est vraiment pourrie? Est-ce qu'on peut se poser sur le bateau en voyant vraiment rien dehors?
Alors, c'est une excellente question. Et c'est une excellente question parce qu'en effet... du coup, pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est que le vol aux instruments, je me permets, Sébastien, de faire une petite digression. Donc, il y a deux régimes de vol. Le régime à vue, là, c'est très simple. En fait, on se repère dans l'espace avec ce que l'on voit. c'est-à-dire l'attitude de l'avion, elle est matérialisée par l'horizon. Notre position vis-à-vis de l'horizon matérialise l'attitude de l'avion, et notre regard qui se porte sur le sol nous permet également de naviguer. On navigue d'une ville à un croisement voie de chemin de fer, à un pont, à un port, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on se repère. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est aux instruments, où là, finalement, on navigue d'une aide radioélectrique à une aide radioélectrique, c'est-à-dire que sur le sol, il y a des émetteurs qui émettent des ondes qui sont reçues par l'avion ou l'hélicoptère, qui nous permettent de nous positionner dans les deux dimensions. Pour la troisième dimension, on a bien sûr l'altitude. Et ensuite, pour l'attitude de l'avion ou de l'hélicoptère, on passe par nos instruments. Et on a un certain nombre d'instruments qui nous permettent de nous représenter la façon dont l'avion ou l'hélicoptère vole. Il y a l'horizon qui nous permet de, en regardant l'horizon, on sait quelle inclinaison on a, et donc on sait si on tourne, on est à plat. Ça a l'air de rien, mais en fait, le corps humain, il n'est pas nativement fait pour pouvoir détecter lorsqu'on est en virage ou pas. Il faut savoir que nos seuls senseurs sont les canaux semi-circulaires, sont des petits canaux demi-circulaires qui sont dans les trois dimensions dans l'oreille interne, et ils détectent uniquement les accélérations. Ce qui fait que quand on n'évolue plus en virage, c'est-à-dire qu'on a installé le virage, eh bien là, notre corps n'est plus capable de savoir si on est à plat ou en virage. C'est ce qui occasionne notamment pas mal d'accidents pour ceux qui ne sont pas initiés au vol des instruments et qui se mettent en couche, c'est-à-dire dans un virage. C'est arrivé notamment au fils Kennedy, du président Kennedy, qui est en virage, du coup, qui est dans un nuage, s'est mis en virage, et finalement, comme il ne savait pas voler aux instruments, il n'a fait que renforcer ce virage jusqu'à partir en vrille, qu'il n'a pas pu rattraper. Et il est mort comme ça. Donc c'est vraiment pas. Il faut se préparer à ce type de vol. C'est un vol qui nécessite de lutter contre ses propres sens, comme je l'ai expliqué. Et ça c'est important. Alors, du coup, en hélicoptère ou en avion, quand on navigue aux instruments, bien sûr, il faut finir par se poser, et on ne se pose bien que si on voit le sol, même s'il y a des systèmes désormais qui permettent de le faire quasiment sans voir le sol. Et donc, on a ce qu'on appelle des minima, comme c'est ce que tu sous-entendais dans ta question, c'est-à-dire qu'on peut arriver sur un aéroport avec une certaine hauteur de plafond et avec une certaine visibilité. Alors, qu'est-ce qu'il en est en mer? Et ta question, elle est d'autant plus pertinente que lorsque, par exemple, on navigue en mer, que la météo change et que lorsqu'on revient de vol, si la météo est vraiment pas bonne et qu'on ne peut rien faire d'autre et qu'il n'y a pas de terrain de déroutement à proximité, que fait-on? Et c'est une question fondamentale. Et donc, on a inventé des procédures qui s'appellent notamment la percée de secours. Alors, normalement, le bateau, au fur et à mesure que la météorologie se dégrade, celui qui a la passerelle, du coup, se rend compte que la météorologie se dégrade et essaye de mesurer le plafond et de mesurer la visibilité et donne ces informations au fur et à mesure au pilote qui, du coup, sent qu'il doit revenir, qu'il faut revenir ou pas. Si néanmoins, du coup, il y a une erreur humaine ou si la météo se dégrade beaucoup plus vite que prévu, moi, ça m'est déjà arrivé, on fait ce qu'on appelle une percée de secours. L'hélicoptère, le Panther, c'est le cas d'un certain nombre d'hélicoptères de la marine, ils sont quatre axes, c'est-à-dire qu'ils sont capables, toutes les commandes bougent tout seuls, sous pilote automatique, sous coupleur de vol plus exactement, ils sont capables de se mettre en stationnaire à une hauteur donnée et à une vitesse donnée. Ce qui fait que du coup, avec notre radar, ou si les bateaux sont également équipés de radar, on essaye en fait de percer dans l'axe du bateau et on va réduire la vitesse en automatique pour être à une vitesse relative assez faible par rapport au bateau, parce qu'il faut imaginer qu'il avance, et on se met à une hauteur assez basse. Le bateau, lui, va, une fois qu'on est guidé en position sur l'arrière du bateau et qu'on a une vitesse relative qui est faible, eh bien, il va lâcher ce qu'on appelle les phoscars. En fait, ce sont des espèces de petits de feux incandescents qui va là et qui flottent, qui larguent dans l'eau toutes les 30 secondes, de telle sorte que si on voit vraiment rien du tout, eh bien, à ce moment-là, en fait, on a le sillage qui est matérialisé par des petites lumières qu'on doit pouvoir voir, parce qu'en fait, il faut imaginer que l'hélicoptère et dans un nuage qui ne voit pas le bateau à quelques mètres, à quelques centaines de mètres devant, il avance à une vitesse relative de 10 km/h ou de 15 km/h par rapport au bateau. Il avance au radar en étant bien sur l'arrière du bateau, et au fur et à mesure, il va acquérir visuel de ces petits feux qui ont été largués par le bateau, par le sillage, et le bateau, lui, il allume tous ses feux à puissance max, ce qui fait que normalement, sur la fin, on doit pouvoir voir le bateau. Moi, ça m'est arrivé une fois, on était en mission de lutte contre le narcotrafic, Dans les Caraïbes, et dans les Caraïbes, l'hygrométrie assez forte, assez importante, le temps est très changeant, c'était de nuit, et finalement, on était sur une opération, on avait trouvé un GoFast, on était en train de l'intercepter. On l'a intercepté un peu tard, il n'y avait plus de carburant, on avait bientôt plus de carburant, puis on attendait l'embarcation commando qui a eu un souci technique, et on a attendu jusqu'au dernier moment, et on est rentré sur le bateau avec peu de carburant et une météo qui n'était pas très bonne. Celui qui était à la passerelle et donc qui était chargé de conduire le navire, il s'était pas rendu compte que la situation météo s'était dégradée parce que la nuit était très sombre, hein, et d'ailleurs c'est pendant les nuits sombres que les narcotrafiquants passent la plupart du temps. Mmh. Et du coup, on s'est retrouvé dans le nuage, à percer en autonome. Donc, l'hélicoptère s'est mis comme ça en stationnaire. Et puis, on a fini par retrouver le bateau. Mais une fois qu'on était à 100, 200 à 50 mètres juste derrière. Donc, voilà, c'est une réalité. Et on s'entraîne très fréquemment pour savoir réaliser ce genre d'exercice.
Incroyable, la décharge d'adrénaline que ça doit être quand tu arrives enfin à poser l'hélicoptère sur le bateau.
Surtout quand tu n'as plus beaucoup de carburant et que tu sais que tu n'as qu'une seule passe.
Aussi, ouais. merci beaucoup, ça fait déjà une première anecdote. On espère qu'on en aura plein d'autres. Tu as parlé un petit peu des qualités qui sont nécessaires pour être pilote. Alors, on va essayer d'approfondir un tout petit peu plus là-dessus. Parce que personnellement, moi, quand je pense à un pilote, d'autant plus à un pilote militaire, j'imagine assez facilement les clichés des héros de bande dessinée comme Tanguy et la Verdure ou alors Maverick dans le film Top Gun. On pense à des têtes brûlées, à très fort caractère, qui fonctionnent purement à l'instinct. Tu nous as déjà donné un petit peu ton avis là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses de ces idées reçues qui continuent à circuler sur le métier de pilote et qu'il faudrait peut-être débunker ?
Bah, je partage complètement ton avis. Parce qu'en fait, j'étais persuadé que c'était un métier d'instinctif. Voilà, parce que je me suis dit que le pilotage nécessitait des capacités psychotechniques et psychomotrices. Et puis, quand j'étais ado, je me disais que je m'en sortais pas si mal à Combat Flight Simulator et qu'il n'y avait aucune raison que ce ne soit pas la même chose dans la réalité. Et en fait, c'est assez marrant, mais c'est d'abord un métier de rigoureux. Et finalement, c'est assez loin du stéréotype. Et ça peut conduire à un écueil, c'est-à-dire que quand on est jeune et qu'on aspire à faire ce métier et que les uniques exemples de pilotes sont des exemples de cinéma ou de BD, comme Buck Danny ou comme Maverick, comme tu l'as mentionné, eh bien, on n'a pas forcément la bonne idée du métier. C'est-à-dire que soit Maverick ou Buck Danny, ça transpire pas forcément le travail, ni la rigueur, bien au contraire. Et pourtant, ce sont des qualités qui sont fondamentales lorsqu'on veut exercer ce métier. Et je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit parce qu'il peut y avoir une distorsion entre la projection que l'on fait de ce métier lorsque l'on est enfant et la réalité du métier. Et ça c'est vraiment très important. Alors, même si la plupart des pilotes racontent que du coup, il faut plutôt être doué en maths et il faut plutôt être sérieux, les stéréotypes ont quand même la vie dure. Et le travail, c'est l'apanage de tous hein, pour réussir. Moi, je, après 15 ans d'expérience aéronautique, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 10% des gens dans la flottille hein, qui étaient faits pour ça. C'est-à-dire que du coup, c'était relativement simple. C'est-à-dire qu'ils comprenaient, ils ont des prédispositions et ils s'en sortent très bien. Alors, il y en a qui s'en sortent très bien, mais qui, un peu comme les très bons élèves en classe, finalement, s'ennuient un peu ou comme ils ne travaillent pas forcément tous les domaines, restent de très bons pilotes, mais uniquement techniquement. Alors que le métier de pilote, il est beaucoup plus large que ça. Pour moi, on peut avoir des prédispositions, mais ce qui est surtout important, c'est de travailler, d'être rigoureux. L'autre écueil, je pense, c'est le statut. Ça a l'air de rien, mais ça fait partie des écueils que l'on peut rencontrer. C'est-à-dire que il faut se méfier. Est-ce que j'ai envie de faire ce métier-là pour le prestige, pour le statut? C'est-à-dire que je veux ressembler, je veux être, ou est-ce que je veux faire? C'est-à-dire, je veux pratiquer une activité qui, je pense, me plaît. Ça a l'air de rien, mais je pense que cette réflexion touchera un certain nombre d'auditeurs, parce que si on veut embrasser uniquement un statut, attention, je pense qu'il risque d'y avoir des grosses déconvenues. Je le dis ça avec toute honnêteté, parce que j'ai rencontré des gens qui voulaient surtout exister à travers ce métier qui véhicule un certain nombre de rêves et de fantasmes et qui jouit d'une certaine notoriété dans notre société.
Vachement intéressant ce que tu dis sur le statut, parce que c'est un petit peu pareil dans le civil aussi. Pas mal de gens qui sont là pour l'uniforme, pour le style de vie un peu, mais si le métier derrière plaît pas,
Exactement. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je voulais revenir sur cette notion de bon pilote, qui est pour moi une notion qui est complètement relative, parce que en fait, si on réfléchit bien, pilote, c'est pas uniquement un métier technique, c'est-à-dire pas uniquement être capable de tenir une trajectoire en trois dimensions. Être bon pilote, c'est aussi être capable de manager un cockpit, pour ceux qui ont la chance d'être dans un cockpit, hein, c'est pas le cas des chasseurs monoplaces, mais et ça, mine de rien, ça demande des qualités humaines, des qualités d'écoute, des qualités d'empathie, hein, c'est-à-dire être capable de se mettre au niveau de l'autre. Et troisième volet, être bon tactiquement. Ça, c'est la spécificité du milieu du milieu militaire. Hein, le pilote de chasse, le pilote d'hélicoptère, le pilote de patrouille maritime dans l'aéronavale. Eh bien, il y a aussi une dimension tactique. Soit se battre contre d'autres avions, soit se battre contre des bateaux, soit se battre contre des sous-marins. Et finalement, un bon pilote, c'est quelqu'un qui arrive à cumuler du coup des capacités, une expertise technique, une expertise dans le cadre du management d'un cockpit et une expertise dans le cadre une expertise tactique. Et c'est comme dans FIFA, c'est-à-dire que le bon attaquant, il va vite, mais d'un autre côté, il est moins bon en défense, etc., etc. Et en fait, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui sont des très très bons managers de cockpit, des très bons commandants de bord. Et eux, ils arriveront à faire énormément de choses parce qu'ils sont capables de créer une synergie dans les cockpits. Il y en a qui sont et qui sont moins bons techniquement et qui l'assument. Il y en a qui sont des excellents tacticiens. Ils arrivent systématiquement à trouver la faille. Ils remportent systématiquement le combat. Mais ils sont peut-être moins bons en management de cockpit. Et ensuite, il y a les très bons techniciens qui sont peut-être moins bons tacticiens, mais qui, eux, arriveront toujours à ramener les avions. Ils sont capables, lorsqu'on fait des démonstrations aériennes, d'être meilleurs que les autres. Ils affrontent mieux que les autres, etc. Et finalement, c'est important de se dire ça aussi. C'est-à-dire que souvent, quand on embrasse le métier de pilote, on voit juste le côté technique, mais en fait, c'est un métier qui est beaucoup plus complexe là. Et du coup, il y a de la place pour toutes les personnalités. Et ça, c'est important de le répéter. Voilà. Alors qu'en école, on met surtout l'accent sur l'aspect technique et un peu le management d'un cockpit. Voilà, je tenais vraiment à le souligner parce que ça, c'est important. Mmh.
C'est super intéressant ce que tu dis, c'est très inspirant, ça me donnerait presque envie de devenir pilote. Alors, on a parlé de ce qu'était un bon pilote. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est d'essayer de parler un petit peu des différences d'un point de vue technique, mais peut-être aussi surtout humain, entre les chasseurs, les pilotes de PATMAR, donc de patrouille maritime, et les pilotes d'hélicoptère.
Alors, je pense que c'est propre à tous les pilotes. Nous sommes tous façonnés par nos missions et elles sont toutes différentes. L'hélicoptériste, lui, très vite, du coup, la vocation du pilote de l'aéronaval, le pilote d'hélicoptère de l'aéronaval, c'est d'embarquer avec son hélicoptère sur une frégate. Et donc, en fait, et c'est le seul. Il y a que deux pilotes à bord de la frégate, c'est le commandant de bord et le copilote. Et ils embarquent avec un lot d'autonomie, c'est-à-dire des pièces de rechange pour pouvoir réaliser toutes les maintenances à bord. Et ça, c'est un sacré métier, parce que quand ça bouge et qu'il faut changer un moteur, il faut s'accrocher. Hein. Et du coup, on cultive l'autonomie et l'indépendance d'esprit. Parce qu'en fait, c'est consubstantiel à notre nature, à nos missions. C'est-à-dire, comme on est déployé sur les frégates pour pouvoir réaliser une mission, juste au sein d'un seul détachement, eh bien en fait, nous, on a une culture assez autonome, assez de débrouillardise, etc. Les chasseurs, ils se déplacent en groupe aérien embarqué. Et ils se déplacent avec toute la meute. Et c'est vraiment une meute. La meute, c'est la somme de toutes les flottilles de chasse. Tous les loups se connaissent entre eux. Ils ont un chef de meute. Et finalement, la physionomie de leur déploiement a des conséquences sur leur état d'esprit. Et du coup, nous, les hélicoptéristes, c'est plutôt un ensemble de villages gaulois. Voilà. Donc, dans la patrouille maritime, on trouve également ça. C'est-à-dire que les avions de patrouille maritime, ils se déploient seuls en détachement. Et du coup, c'est assez proche de ce que peuvent vivre les détachements d'hélicoptères, sauf que eux, ils opèrent à partir d'un aéroport, d'un aérodrome, alors que nous, on opère à partir de la frégate. Donc, dans les états d'esprit, forcément, ils sont différents parce que nous sommes façonnés littéralement par nos missions.
Et est-ce que tu penses que c'est intéressant de connaître les différents états d'esprit avant pour s'orienter en fonction de sa personnalité, ou au final, on va s'adapter en fonction des missions, comme tu dis?
Eh bien, en fait, c'est assez bien fait. C'est assez bien fait parce que quand on va à travers la sélection en vol que l'on réalise à l'EIP 50S, qui est donc une escadrille de sélection en vol qui est à l'Envéoc, par laquelle tous les pilotes de l'aéronaval passent, c'est là qu'on est orienté. Et c'est assez bien fait parce qu'ils évaluent à la fois nos chances de succès, Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire notre capacité à suivre une courbe de progression définie d'avance. Mais ils évaluent aussi notre état d'esprit, c'est-à-dire ils essayent de savoir si on arrivera à bien s'intégrer dans telle ou telle communauté. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à bien le faire ? Puisqu'en fait, la communauté d'instructeurs est une communauté hétéroclite. On a des anciens pilotes de patrouille maritime, des anciens pilotes chasse, des anciens pilotes de Hawkeye, des anciens pilotes d'hélicoptères qui font de l'avion et du CAP-10. Et du coup, ils arrivent à cerner les personnalités, ils nous orientent également en fonction de ça. Et moi, par exemple, j'ai une personnalité... comment dire, j'ai un caractère assez fort et ce que j'aime plus que tout, c'est l'autonomie. Ils l'ont décelé assez tôt d'ailleurs et j'ai été orienté pilote d'hélicoptère. Et même si je râlais un peu au début, finalement, je suis très content parce que j'ai fait un métier qui était en accord avec ma personnalité. Et si je peux me permettre, du coup, une minute. Un peu de philosophie, je trouve que les chemins de la vie sont assez bien faits, parce que ce qui peut ressembler à un échec de temps en temps, parce qu'on n'obtient pas exactement ce que l'on veut, peut se transformer en une opportunité. C'est-à-dire que les chemins de la vie sont bien faits, puisqu'en fait on est systématiquement mis dans un endroit qui est plus ou moins en adéquation avec nos capacités. Il n'y a rien de pire que d'être... comment dire, dans un milieu qui ne nous correspond pas ou dont le rythme est trop effréné. Moi, j'ai eu le cas en école, j'ai des copains pour lesquels, qui voulaient absolument faire pilote, qui s'accrochaient, qui étaient des gros travailleurs, mais pour qui la progression était un peu chaotique. Ils se sont raccrochés jusqu'au bout et finalement, ça a été une délivrance d'arrêter. Parce que il y avait une réelle distorsion entre leur capacité et ce qui était attendu, et ils l'auraient très mal vécu. Pendant toute leur carrière aéronautique, ça aurait été difficile.
Voilà. C'est intéressant, merci. Ce que je te propose maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ton métier au quotidien. On va rentrer tout doucement dans le sujet. Est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps de la vie au quotidien sur la frégate et de ton panel de tâches au sol, alors je mets des guillemets autour parce que bon, c'est la mer, et de la vie au quotidien sur le bateau.
Alors déjà, il faut essayer de réfléchir à ce qu'est un bateau en mer. Un bateau, une frégate qui navigue, c'est une ville et qui est composée d'un certain nombre de métiers. On a à la fois les shérifs qui vérifient que les règles sont respectées à bord. On a également des cuisiniers, des boulangers. On a des gens qui s'occupent de la sécurité incendie. Mais c'est également la frégate, c'est également un aéroport puisqu'on peut y faire décoller, atterrir, contrôler même grâce au radar des hélicoptères. C'est aussi une base nautique parce que sur une frégate, on a des embarcations rapides qui peuvent être mises à l'eau, donc c'est une espèce de zodiac surmotorisé. La frégate, c'est également une forteresse avec des pièces d'artillerie. On a des missiles anti-aériens, des missiles anti-surface, on a des missiles anti-sous-marins qu'on appelle des torpilles. Et donc, c'est un ensemble qui est extrêmement complexe. Et ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que finalement, on a peu de place les uns pour les autres. Du coup, ça nécessite de pouvoir vivre en communauté. On a tous un mètre linéaire. En gros, les bateaux, ils font 150 mètres, on est 150, donc ça fait un mètre linéaire. Il faut être capable de vivre avec les autres longtemps, loin des siens, avec des personnes qu'on n'a pas choisies. Ça a l'air de rien, mais c'est pas forcément si évident dans une société où on cultive les moments pour soi, où on met l'individualisme de temps en temps au premier plan. Et du coup, réussir à faire équipage, c'est pas forcément inné. Mais par contre, c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. La première qualité du marin, moi je trouve, enfin il en a deux. La première, c'est sa résilience, être capable du coup de faire face. Le premier ennemi du marin, c'est la mer, hein, c'est pas l'ennemi, c'est pas l'adversaire, c'est la mer, voilà, qui de temps en temps est calme, de temps en temps est agité. La deuxième qualité du marin, c'est la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire que pour être déployé longtemps en promiscuité, ça nécessite de prendre sur soi très souvent. Et du coup, la stabilité émotionnelle, ou du moins la capacité à systématiquement montrer le positif et cacher le négatif, c'est une qualité qui, pour moi, est essentielle et elle est consubstantielle à la condition de marin. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on y fait ? Que fait un pilote d'hélico sur une frégate ? Parce qu'on ne vole pas toute la journée. Hein. La ville, par contre, la frégate tourne H24. Eh bien, moi, mon travail, donc moi, j'étais assez rapidement chef de détachement, c'est-à-dire que j'étais responsable à la fois de la maintenance, enfin de comment dire de l'organisation de la maintenance. J'ai été également le chef de service, donc tu es responsable des hommes qui sont placés sous ton commandement à travers le détachement. Donc tu organises l'activité, c'est-à-dire que du coup tu regardes les missions qui sont potentiellement attribuées avec le chef opération de la frégate et t'essayes de caler les différentes maintenances. Ensuite, tu as un rôle dans la préparation de missions opérationnelles. En fait, il faut savoir que l'équipage, enfin, un détachement hélicoptère, c'est composé de 6 techniciens, un plongeur qui est également technicien, donc ça fait 7 techniciens, un membre d'équipage qui est à l'arrière, qui est à la fois le chef cargo, c'est-à-dire qui s'occupe des passagers quand on en a, qui est capable de faire tireur à pufeu, c'est-à-dire tirer à l'arme automatique, qui est treuilliste également, et qui est tacticien, c'est-à-dire qui s'occupe d'une partie de la tactique. Je le détaillerai un peu plus tard. Et devant, on a 2 pilotes, un commandant de bord et un copilote. Et parmi ces 2 pilotes, il y a un chef de détachement, voilà, qui est le chef de service. Et du coup, comme tu peux le voir, l'équipage est très réduit. Et du coup, ce sont les pilotes et le membre d'équipage qui préparent la mission. Et on vole dans des endroits, il faut arriver à s'insérer discrètement dans les couloirs aériens lorsqu'on a besoin de voler aussi haut. Il faut composer avec l'espace aérien. Il faut être capable, savoir exactement quels sont les objectifs que l'on doit traiter en termes de renseignements, etc., etc. Donc, quand il y a des interactions avec d'autres marines, il faut être capable de s'insérer dans le dispositif. Donc, ça demande de la préparation. Et au retour de mission, ce sont les 2 pilotes et le membre d'équipage qui également récupèrent toutes les informations que l'on a pu récupérer, qui viennent de nos différents senseurs pour les concaténer et ensuite fournir quelque chose d'utile au bateau, au commandant de la force, etc., etc. Donc voilà le travail. Alors ce qui est assez amusant sur un bateau, c'est que en fait, on imagine souvent les marins en train de tirer sur une corde. Nous, on appelle ça une nocière ou un boot. Mais en fait, le marin, il travaille la plupart du temps derrière son ordinateur. Et alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ça bouge et que la chaise n'a qu'une seule envie, c'est se barrer, et que toi, tu es devant ton ordinateur dans une pièce uniquement et qui n'a pas de fenêtre, donc uniquement éclairée par une lumière artificielle, et que à chaque vague, ton ordinateur, ta chaise bouge et que tu essaies de taper un message, tu vois, ça, c'est une réalité qui est assez peu méconnue, c'est assez cocasse, et ça vaut le coup d'être vécu. Voilà. Et quand il y a vraiment beaucoup de mer, c'est non seulement pas facile de travailler, mais c'est pas facile de dormir, parce qu'il faut s'imaginer, moi j'ai de la chance, je suis plutôt grand, donc quand je rentre dans mon lit, j'arrive à me caler, mais ceux qui sont plus petits ont plus de difficultés, mais il faut imaginer que quand on essuie des tempêtes, eh bien, tout vole dans la chambre. On attache bien sûr le maximum, mais on se cramponne au lit pour rester dans le lit.
Vous avez des ceintures pour vous attacher ou?
Ouais, et alors exactement, il y a des ceintures pour s'attacher, pour dormir attaché. Donc voilà, c'est une ville qui bouge et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et c'est une ville qui se déplace aussi. Et ça, c'est fait partie des opportunités incroyables de ce métier.
C'est marrant tout ce que tu dis sur la vie, en fait, sur le bateau, parce que ça me fait beaucoup penser à ce dont parlait un autre Thomas Pesquet, en l'occurrence, sur la vie dans la station spatiale. Il y a quand même beaucoup de points communs, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs. On est seul, et être seul, ça veut dire être autonome. Et ça, c'est une qualité que l'on attend de nos techniciens. Ça paraît... lorsqu'il y a des maintenances correctives, lorsqu'il y a des pannes à traiter, ils doivent être capables de faire les choses tout seuls, et ils sont assez peu. On est autonome. Moi, j'allais prendre un autre exemple, ce qui me fait quand j'essaye d'expliquer ce qu'est l'appontage de nuit, je prends souvent l'exemple d'un arrimage à une station spatiale, même si je suis jamais allé dans l'espace, mais parce que je pense que ça ressemble à ça. Il faut imaginer quand la nuit est très noire, il n'y a pas d'horizon. Et du coup, le noir de la mer se confond avec le noir du ciel. Et en fait, quand on approche à vue sur le bateau, eh bien, on a uniquement les feux de contour de pont, c'est-à-dire des petites lumières vertes, des petites lumières jaunes et des feux de contour du hangar qui sont dans le noir absolu et qui bougent en 3D. Et du coup, pour moi, quand j'affrontais par nuit très noire, des nuits sans horizon, j'avais vraiment l'impression d'être dans l'espace, c'est-à-dire que on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on se situe. Mais on essaye de se rapprocher de cette forme qui, au fur et à mesure qu'on se rapproche, devient une forme de plus en plus concrète. Mais au début, on voit des petites lumières dans l'hyperespace. Et je pense que ça se rapproche de ce que peuvent vivre les astronautes. C'est vraiment unique comme moment. Et on est guidé par un faisceau lumineux qui nous dit si on a le bon plan d'approche. On arrive à matérialiser la position du bateau avec les petites lumières de pont. C'est vraiment, ça fait partie des moments clés, des jalons clés d'une carrière de pilote de l'aéronavale. Les moments où on est lâché à l'appontage, c'est un moment qui est fondateur pour un pilote de l'aéronavale, surtout de nuit, parce qu'à partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions de météo, il faudra ramener l'avion et l'équipage. Et ça, c'est vraiment un sacré moment de confiance. C'est le commandant de flottille qui lâche ou les pilotes expérimentés qui lâchent les pilotes à l'appontage, et c'est un sacré moment de confiance, et on se fait adouber par les pilotes expérimentés, et ensuite on a les clés pour pouvoir ramener l'hélicoptère quelles que soient les conditions. Et ça, c'est vraiment génialissime comme moment.
Sacrée responsabilité. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de prendre un petit peu plus de hauteur. Quelles sont les missions que tu réalises avec ton hélicoptère ? J'ai cru comprendre que la Panthère, c'était un peu un couteau suisse, que c'était un hélico très polyvalent. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, s'il te plaît ?
Ouais, alors je vais commencer par présenter l'hélicoptère. Du coup, ça va surtout intéresser les geeks de l'aviation qui sans doute me reprendront parce qu'ils s'y connaissent mieux que moi. Alors, l'hélicoptère Panthère, c'est une version militarisée du Dauphin, qui est un hélicoptère de chez Airbus Hélicoptère. C'est un hélicoptère biturbine, ce qui est plutôt pratique parce qu'on a toujours l'assurance qu'il y en a une qui fonctionne quand il y en a une qui est en panne. Et c'est un hélicoptère qui a des senseurs dédiés à la lutte anti-navire. La lutte anti-navire, en gros, c'est le combat naval, c'est-à-dire deux forces qui s'opposent sur l'eau, donc des frégates et des hélicoptères, des avions de patrouille maritime, également des chasseurs. Donc il faut être capable de détecter, d'identifier et ensuite d'envoyer les positions. Et cet hélicoptère-là, il a été équipé pour détecter, identifier, envoyer les positions. On détecte grâce au radar, on détecte grâce aux jumelles de vision nocturne. De nuit, c'est très pratique, on voit hyper loin, et on voit les feux des navires quand ils les laissent allumer. On identifie grâce à notre caméra optronique. On a une caméra jour, mais également une caméra infrarouge qui nous permet d'identifier à des très grandes distances les bâtiments. Et forcément, quand on identifie un bateau, ils sont plus ou moins dangereux. Le patrouilleur, il peut pas forcément nous atteindre, ou du moins, ils ont des moyens de défense antiaérienne qui sont de très courte portée. La frégate de défense aérienne, attention, hein. Faut surtout pas rentrer dans son volume dangereux, parce que là c'est sûr, on se fait abattre tout de suite. Là, je parle d'exercice. Voilà. Et ensuite, il faut être capable de transmettre la position de l'ennemi une fois qu'on l'a détecté, identifié. Et c'est ce qu'on fait par ce qu'on appelle la liaison de données. C'est comme le Wi-Fi. En fait, on a une espèce de Wi-Fi qui irrigue toute la force, qui passe par des ondes HF ou UHF. Et en fait, on partage tous notre situation tactique. C'est comme dans les jeux vidéo, quand on joue en réseau, eh bien, on partage tous notre propre perception du terrain, c'est-à-dire la position des ennemis et la position des amis. Eh bien, nous, on fait exactement la même chose sur l'eau. On positionne tous les mobiles. Un mobile, c'est un avion, c'est un hélicoptère, c'est un bateau. On positionne les amis, les neutres, les ennemis, les suspects, ceux qu'on n'a pas encore réussi à identifier mais qui ont des cinématiques un peu étranges ou des comportements étranges. On les positionne sur une carte et on se transmet tous les positions, et c'est à partir de cela qu'on arrive à mener un combat naval. Donc on a un modem, une liaison de données, on a aussi des capteurs de guerre électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on est capable de recevoir toutes les ondes électromagnétiques ambiantes, et il faut savoir que tous les acteurs du combat maritime émettent quelque chose. Sur les frégates, il y a des radars. Le radar, il est destiné à avoir détecté la position d'un aéronef ou d'un bateau, mais également à orienter ce qu'on appelle les systèmes d'armes, donc des missiles, c'est ce qu'on appelle les conduites de tir. Et du coup, notre système est capable de mesurer tous ces signaux et d'associer à chaque signal une carte d'identité en disant « Attention, dans tel secteur, j'ai telle carte d'identité et donc ça peut être tel type de bateau. » Et du coup, après, on recoupe avec les autres capteurs. Et c'est ce qui fait que quand le radar, le capteur électromagnétique, la boule optronique et la vue, via les jumelles de vision nocturne la nuit ou via l'œil le jour, et bien on est capable de se représenter notre situation, et tous les éléments de la force mettent bout à bout leur situation, et c'est ce qui permet du coup d'avoir la bonne représentation du théâtre d'opération. Voilà. Donc c'est un hélicoptère qui a des senseurs qui sont performants, il a été rétrofité récemment, parce que c'est un hélicoptère qui n'est pas tout jeune. Les premiers Panthères ont été touchés par la flottille 36F en 1995, et il y a, et c'est la date de création de cette flottille, qui est la plus jeune flottille de l'aéronaval, et on en a 16 au total. Voilà. Alors, okay. qu'est-ce qu'on fait avec ces senseurs? Alors, juste avant ça, c'est un hélicoptère qui a été marinisé, c'est-à-dire qu'il a un train d'atterrissage robuste, pas parce que les pilotes de l'aéronaval sont mauvais, mais parce que, l'aéroport bouge, et du coup, quand il y a beaucoup de rouliers de tangage, c'est-à-dire des mouvements de plateforme, les mouvements du bateau, eh bien, il faut que le train d'atterrissage soit capable d'encaisser le choc. Pardon. C'est le cas des avions de chasse. Ils ont aussi, si vous avez les geeks regarderont, le train d'atterrissage d'un Rafale Air n'est pas le même que le train d'atterrissage d'un Rafale Marine. Voilà. On a également un harpon. Alors, le harpon, c'est un espèce de petit crochet qui se situe sous l'hélicoptère, sur nos aires d'appontage, donc sur l'arrière des frégates. En fait, on a une surface plane sur laquelle on se pose, et au milieu, il y a une grille en métal avec des petits croisillons. Et une fois qu'on est posé, on appuie sur un bouton et le harpon vient s'agripper à la grille. Et c'est ce qui fait que l'hélicoptère ne bascule pas, même quand le bateau bouge beaucoup. Ce qu'il faut savoir, que sur un hélicoptère, le centre de gravité est assez haut. Pourquoi ? Parce que même si les pilotes sont en bas et le réservoir sont en bas, en haut, on a la boîte de transmission principale qui permet de convertir la rotation des moteurs en la rotation du rotor. On a aussi les moteurs. Et du coup, on a un centre de gravité qui est assez haut. Et c'est ce qui permet, du coup, le harpon permet de rabaisser le centre de gravité et de tenir sur le pont, même quand le bateau bouge beaucoup. Il est marinisé, l'hélicoptère, donc on a non seulement un harpon, non seulement un train renforcé, mais on a également des flottabilités de secours. Pour une raison ou pour une autre, si on doit amerrir, eh bien, on peut le faire sans couler. Voilà. Et on s'y entraîne d'ailleurs, ça fait partie des entraînements réguliers de tous les pilotes de l'aéronaval. On va s'entraîner à l'Anvéoc, on est dans une cabine qui représente soit un avion, soit un hélicoptère, soit un avion de chasse, soit un hélicoptère, et on est immergé dans l'eau, tout attaché, en tenue. Et on doit être capable de sortir de l'avion ou de l'hélicoptère en appliquant les procédures de secours. Donc on s'y entraîne, voilà. Un hélicoptère qui est marinisé avec des capteurs dédiés au combat naval. Et ensuite, en termes d'armement, eh bien, on a différents calibres qu'on peut mettre à l'arrière, de l'arme automatique, on peut mettre aussi du fusil, un fusil de sniper, etc. Donc, il y a un certain nombre d'armements qu'on peut avoir à l'arrière.
Ok, sacrée machine.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce que tu fais comme mission avec ça?
Alors, les missions qui sont dédiées à la flottille 36F, elles sont assez nombreuses. La première mission, c'est la lutte anti-navire, j'en ai un peu parlé. Mmh. En gros, c'est être capable de... Nous, on fait de la désignation d'objectifs, c'est-à-dire que l'hélicoptère, lui, il va aller voir très loin, identifier l'ennemi, donner la position de façon récurrente pour permettre à sa frégate de tirer le missile et de détruire l'ennemi. Et en fait, la frégate va chercher à engager au plus tôt l'ennemi. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça de la désignation d'objectif transhorizon. Parce qu'en fait, on va au-delà de l'horizon de la frégate. En fait, on est les yeux de la frégate. Donc ça, c'est la première mission.
Vous pouvez vous éloigner à quelle distance à peu près? Désolé de t'interrompre, mais de la frégate, quel est le rayon d'action à peu près de l'hélicoptère?
On peut s'éloigner à plus de 200 km.
D'accord.
Okay. De la frégate, voilà. Sachant que, en fait, l'idée, c'est qu'on cherche un ennemi. Alors, la particularité du combat naval, c'est qu'il se joue sur des surfaces hyper grandes. Et l'objectif des bateaux, c'est d'être le plus discret possible. Et nous, on ne peut pas, contrairement à l'armée de terre, se cacher derrière un arbre ou un caillou. Donc, la seule façon de se cacher, c'est d'être dilué d'une certaine façon quand on est en pleine mer. Et du coup, il faut essayer de réduire sa signature électromagnétique, c'est-à-dire diffuser le moins possible d'ondes électromagnétiques, et on profite aussi éventuellement des avantages que peut nous donner la météo, c'est-à-dire que quand un bateau peut très bien se cacher sous un nuage, voilà, pour éviter qu'on le reconnaisse de loin, etc., parce que le nuage quand il y a de la pluie perturbe notamment la course des ondes électromagnétiques. Donc ça c'est la première mission, la lutte anti-navire. La deuxième mission, c'est la lutte contre le narcotrafic. On a en permanence à la flottille un détachement qui est en Martinique qui réalise des opérations en mer des Caraïbes et qui, en gros, intercepte les flux de narcotrafiquants qui partent de Colombie, de Venezuela et qui remontent l'arc caribéen pour aller ensuite alimenter le commerce de stupéfiants en Amérique. Mais il y a également un autre flux qui part dans le golfe de Guinée et qui ensuite remonte vers l'Europe via le Maghreb. La lutte contre le narcotrafic, c'est une mission qui est passionnante. pour l'hélicoptériste, parce qu'en fait, on a plusieurs casquettes. La première casquette, c'est essayer de trouver les go-fast. Les go-fast, ce sont les embarcations que l'on chasse. Il faut imaginer que ce sont des embarcations surdimensionnées avec des hypervitaminées, pardon, avec des moteurs très puissants, parce que l'idée, c'est de rallier un point A à un lieu de livraison le plus rapidement possible. Ils transportent différents types de drogues. Hein. Alors dans les Caraïbes, c'est surtout de la cocaïne et du cannabis. Et ce sont des missions qui sont intéressantes parce que la plupart du temps, c'est de nuit. Les narcotrafiquants passent de nuit. Et c'est extrêmement intéressant parce que l'hélicoptère, non seulement il détecte, mais après, il faut qu'il intervienne. On intervient de nuit sur ces embarcations qu'on cherche à stopper. C'est une mission qui est très exaltante parce qu'on est très près de l'eau. On est de nuit. On voit sous jumelles de vision nocturne. Alors que l'adversaire ne voit pas forcément. On essaye de le faire s'arrêter. C'est une mission qui est extrêmement intéressante. D'autres missions que l'on réalise, il y a la lutte contre la piraterie. Alors, c'était une des grandes missions de la flottille entre 2007 et 2015, même si là, ça tend plus ou moins à s'essouffler. Je sais pas si vous vous souvenez tous, mais il y a eu une grande période de la piraterie. Alors, il faut savoir que la Somalie est un État déchu, et il y a eu un certain nombre de milices qui se sont associées en milices de pirates et qui sont allées mener des attaques en pleine mer. Parce qu'il faut savoir que au large de la Somalie, donc on a un trafic commercial qui est extrêmement important, qui relie en gros l'Asie à l'Europe. Hein, il passe par le canal de Suez et du coup il passe à proximité de la côte somalienne. Il y a un certain nombre de pirates somaliens qui menaient ce genre d'opération, c'est-à-dire prendre d'assaut des porte-containers, les pétroliers, pour ensuite les ramener devant la Somalie et ensuite exiger une rançon en contrepartie. Ce sont des missions qui étaient assez exaltantes aussi en tant que pilote d'hélicoptère, puisqu'on faisait du renseignement sur les pétroliers, sur les porte-containers qui avaient été pris en otage. On prenait des photos de très loin des otages, des preneurs d'otages également. Et puis ensuite, on essayait en mer de les intercepter. Alors j'ai une petite anecdote là-dessus, parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir intercepter des pirates. On avait reçu un appel de détresse d'un bâtiment qui s'était fait attaquer par des pirates et qui avait réussi à l'esmer. Et du coup, la frégate a monté en allure et on était quasiment à 48 heures de navigation. Et on a essayé de rallier la position présumée, hein, sachant que les pirates se sont enfuis et on était au milieu de l'océan Indien. Donc c'est vraiment comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Mmh. C'est ça qui est intéressant dans ce métier-là, c'est que du coup il est assez complet. Du coup on s'est d'abord posé la question des camps de pirates que ces pirates-là cherchaient à rallier, hein, parce qu'il y avait tout un tas de camps de pirates qui sont sur la corne de l'Afrique. Et du coup on avait déduit à peu près une route, une vitesse de l'embarcation. Et on a programmé un vol au lever de soleil. Et au lever du soleil, là, avec l'hélicoptère, au radar, je suis au radar, je détecte un petit plot, on va voir, et on tombe sur l'embarcation des pirates. On est tombé sur des pirates somaliens qui cherchaient à rentrer chez eux. On a guidé l'embarcation et on est intervenu dessus pour pouvoir les intercepter. Ils étaient armés. Ils étaient très souvent armés de Kalachnikov, un peu plus rarement de lance-roquettes. C'était une expérience absolument incroyable menée en océan Indien.
Et est-ce que tu as déjà dû essuyer un feu assez nourri de ces go-fast ou alors de ces pirates et est-ce que la Panthère est un hélicoptère qui est bien fait pour faire face à ça?
En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'aéronef qui soit bien construit pour parer à des tirs. La meilleure façon de s'en sortir, c'est d'aller vite, c'est de bouger, voilà. Ou c'est d'intervenir avant même qu'on puisse répliquer. Moi, ça m'est arrivé de me faire tirer dessus deux fois. C'était au large de la Somalie. Et la particularité, quand on est dans un aéronef, c'est qu'en fait, on n'entend pas les coups de feu. Moi, je me souviens, on faisait du renseignement à proximité d'un camp de pirates et subitement, on a vu qu'il y avait des mouvements de population. C'est-à-dire que les gens se sont mis tous à courir dans le village et du coup, on s'est demandé ce qui se passait. Et on s'est un peu écarté puisqu'on s'est dit qu'il devait se passer quelque chose. Et on s'est rendu compte, en regardant plus précisément, qu'en fait, il y avait quatre personnes qui étaient en train de nous viser à l'arme automatique. Voilà, à la Kalachnikov, mais aussi au calibre un peu plus important. Et du coup, voilà. Mais on s'en serait jamais rendu compte si la foule s'était pas déplacée dans le village, puisqu'en fait, on n'entend rien. Et tant qu'on n'est pas touché, eh bien, on ne sait pas qu'on est visé, quoi. Voilà. Alors après, l'avantage de l'hélicoptère, c'est que on bénéficie facilement de l'effet de surprise. Hein. Quand on arrive de nuit, tout feu éteint, sur une embarcation qui va à grande vitesse, et quand on se met juste derrière, même à quelques mètres, ils nous voient pas, ils nous entendent pas. Hein. Ils nous entendent pas parce qu'ils ont tout le vent relatif dans leurs oreilles, ils sont focalisés sur l'avant et la nuit est tellement sombre qu'en fait ils nous voient pas. Donc, on cherche plutôt à provoquer l'effet de surprise. Voilà. Mais ça peut arriver, c'est arrivé à des copains de se faire tirer dessus au lance-roquettes aussi en océan Indien. Voilà, ça fait partie du danger de ce genre de job. J'ai des copains dans la latte qui se sont fait aussi tirer dessus.
En gros, faut utiliser un petit peu de jugeote pour éviter d'avoir à sortir les muscles, quoi.
Ouais, c'est ça. Il faut surtout être capable de créer la surprise. Voilà. Et que ce soit pas l'adversaire qui crée la surprise. Sinon, c'est pas toujours à notre avantage. Il y a aussi des missions de secours en mer, c'est-à-dire être capable. La flottille 36F là, de 2017 à 2021 était responsable du secours en mer en Méditerranée. Il y avait deux équipages en permanence d'alerte et deux hélicoptères, et on était appelé par un organisme de coordination des opérations de sauvetage là. Et qui ensuite nous dépêchait dans des zones où fallait trouver des naufragés. Moi j'ai encore une fois eu de la chance parce que j'étais commandant de bord au moment où la flottille a récupéré ses opérations. Et du coup j'ai participé aux alertes. J'ai eu la chance de réaliser une cinquantaine de missions de sauvetage et participer au secours d'une trentaine de personnes. C'est des missions qui sont absolument passionnantes parce qu'il faut imaginer qu'on est réveillé en pleine nuit par une petite voix qui nous dit bonjour, est-ce que vous pouvez porter assistance à une famille dont le voilier est en train de couler voilà, à telle position entre la Corse et le continent. Et du coup en quelques minutes on est dans un cockpit avec un équipage qui vient juste de se réveiller. Il faut très vite être capable de planifier une mission, très vite être capable de planifier un plan A, un plan B, très vite être capable d'être opérationnel. Hein. Et ensuite, on est lancé dans le noir ou dans l'inconnu, tout simplement, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Les missions sont toutes différentes et on a beau s'entraîner, il y a toujours des missions qui sont assez extraordinaires. Il y a aussi un travail d'enquête, c'est-à-dire que quand on est dépêché, par exemple, pour des missions de recherche, on essaye de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer avec le peu d'éléments qu'on peut nous donner. Voilà. J'ai en tête... une mission de sauvetage en mer, c'était en 2020, à l'été. On est appelé par le CROSS, donc un organisme qui coordonne les opérations de sauvetage, et qui m'appelle sur mon téléphone de service et qui me dit « est-ce que vous êtes prêt à aller chercher une mère et sa fillette qui sont pris dans une tempête sur un voilier ?» La fillette, du coup, est très malade. Est-ce que vous pouvez la chercher ? Et du coup, je demande du coup au CROSS quelles sont les conditions de mer. Alors, ils me disent, ils posent la question au skipper, et ensuite le verdict tombe. Il y a 35 nœuds avec 40 nœuds en rafale devant, donc ça fait à peu près 60 km/h avec des rafales à 70 km/h environ, il y a 5 mètres de creux. Et là, franchement. La première question, c'est est-ce que j'en serais capable ? Est-ce que je serais capable de treuiller mon plongeur sur un petit voilier dans ces conditions-là ? Et c'est ce que je trouvais hyper intéressant dans ce job-là, de secours en mer, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est un vrai travail d'équipe parce qu'il faut que chacun joue le meilleur de sa partition, il faut que le treuilliste joue le meilleur de son savoir-faire, le pilote également, le copilote également, le plongeur également. C'est un vrai travail d'équipe. Et ce jour-là, du coup, on a réussi... grâce à la dextérité de tout le monde, à sortir la fillette et sa maman là du voilier, et c'était extrêmement intéressant. Mais jusqu'à ce que j'arrive à la verticale du voilier, jusqu'à ce que le plongeur soit arrivé sur le voilier, soit posé sur le voilier, je ne savais pas si je serais capable de le faire. Mais ça c'est vraiment, c'est là où on sort des sentiers battus, parce que en fait on, dans tous les métiers, on nous apprend à réussir quelque chose, et dans le sauvetage en mer, on y va, on essaye, on n'est pas sûr d'y arriver. Il y a des conditions qui sont de temps en temps très difficiles, et on tente, et il faut savoir maîtriser le risque, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce sont des missions qui sont absolument passionnantes, parce qu'on va au bout de soi-même, au bout de ses capacités, et c'est là où la formation, c'est là où il faut faire confiance à la formation qu'on a reçue. C'est-à-dire que les parcours sont très bien faits, puisqu'on arrive ensuite en équipe, en mettant bout à bout toutes nos compétences, à réaliser des opérations de secours de haute voltige. Voilà.
Mais ce que je te propose, c'est qu'on en parle maintenant, en fait, de cette gestion du risque dans des missions où au final, tu as assez peu d'informations, où tu sais même pas si tu vas y arriver. Comment tu gères ça, toi, personnellement ?
Eh bien, en fait, la première chose, c'est essayer de récupérer le maximum d'informations et être critique vis-à-vis des informations qu'on nous donne. Par exemple, et essayer de se les représenter en équipage. Je vais prendre l'exemple, je me souviens, il y en avait un, il fallait aller chercher un skipper qui naviguait en solitaire, qui naviguait qui était parti alors d'un port du sud-est de la France et qui ralliait il me semble Narbonne, qui traversait du coup une partie de la Méditerranée. Il était tout seul à bord et il s'était blessé. Il fallait aller le chercher, et du coup il avait du mal à se mouvoir et il pouvait plus rien faire à bord de son bateau, plus rien du tout. Le bateau était en pilote automatique. Et il était très loin, il était à 100 nautiques, et du coup c'est à peu près la portée max de mon hélicoptère, et pour un stay, c'est-à-dire pour un, ensuite j'avais 5 minutes pour treuiller, entre 5 et 10 minutes. Et du coup pendant tout le trajet, on a tous essayé de se représenter la situation et se dire qu'est-ce que je suis capable de faire. Et la première chose quand on veut réussir une opération de secours, c'est anticiper un plan A, un plan B, un plan C, et être capable de se reconfigurer très rapidement et être tous sur la même longueur d'onde au sein de l'équipage. Donc on a mis à profit tout ce temps pour essayer de se renseigner. Il se trouve qu'il pouvait plus du tout bouger. On a essayé de se renseigner sur l'allure du voilier, c'est-à-dire dans quelle configuration étaient ses voiles. Ça paraît bête, mais le treuil est à droite dans l'hélicoptère. Donc ça veut dire que le pilote qui est aux commandes est à droite. Donc on travaille uniquement avec le voilier sur notre droite. Et il faut qu'il soit dans une certaine configuration. En l'occurrence, si le voilier prend le vent de la droite, ça veut dire que le mât est sous l'hélicoptère. Et ça, c'est très dangereux. Donc on essaye en général, quand on peut, de mettre dans l'autre configuration, c'est-à-dire qu'il prenne le vent de la gauche, le voilier, de telle sorte que le mât soit dégagé du treuil. Je ne sais pas si tout le monde arrive à se représenter ça, mais voilà. Et plutôt de secteur avant. Parce que si le voilier prend le vent du secteur arrière, le souffle de l'hélicoptère, qui est très puissant, se rajoute au vent relatif. Et là, on peut, si le bateau est sous voile, eh bien, il peut ne plus être contrôlable. C'est-à-dire qu'il y a tellement de vent dans les voiles qu'il va faire complètement n'importe quoi. Donc, en fait, c'est un travail très fin d'anticipation que l'on a fait. Et du coup, là, au fur et à mesure qu'on ralliait la position de ce pauvre skipper, on essayait de se représenter la situation. On s'est dit, OK, plan A, on arrive à poser le plongeur à bord. Plan B, on n'arrive pas à plonger le plongeur à bord, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va lui demander d'installer tout de suite un boot, une corde, à un pare-batte, donc une espèce de bouée de sauvetage. Et en fait, il mettrait tout ça à l'arrière du voilier, il ferait traîner ça de telle sorte qu'il puisse se jeter à l'eau, s'accrocher du coup à la bouée, et nous, on vienne le chercher sur la bouée. Donc comme ça, on serait dégagé des obstacles. Et du coup, on réfléchit au plan A, au plan B, au plan C. Et quand on arrive sur place, là, on voit que le bateau est au mauvais cap, c'est-à-dire qu'il prend le vent de l'arrière et du mauvais bord, c'est-à-dire que le vent vient du mauvais côté, donc la pire des configurations, et qu'en plus, lui, il est vraiment plus capable de manœuvrer son voilier. Eh bien, heureusement, on avait tout préparé, on lui avait dit de se mettre dans la bonne tenue, on lui avait pour qu'il soit capable de se jeter à l'eau, le cas échéant, parce qu'on avait très peu de temps, et donc on est arrivé, on a appliqué notre plan B, et en fait, on a pu optimiser le temps de présence sur zone, et on a pu, du coup, le récupérer et le ramener. Donc la première chose, c'est le plan A, le plan B, enfin, lorsqu'on a une situation qui sort un peu du cadre, il faut être capable de passer d'un plan A à un plan B à un plan C, mais ça c'est le propre du pilote. Je pense que c'est valable quel que soit le type de vecteur, on envisage toutes les situations et on est prêt à y répondre très rapidement, basculer d'un plan à l'autre. La deuxième chose, c'est très bien connaître le cadre. Le 4, ce sont des règles. Et dans l'aéronaval, il y a deux règles qui se superposent, la règle militaire et la règle aéronautique. Toi, tu es également du milieu aéronautique et tu vois également de quoi je parle, j'imagine, mais les règles aéronautiques sont draconiennes. Quand on arrive sur un terrain, il y a une façon de se présenter. Quand la météo est pas bonne, on peut faire. Il y a un certain nombre de choses qui sont autorisées, d'autres qui ne sont pas autorisées. Il faut potentiellement se dérouter vers un autre terrain. Et quand on est acculé et qu'on doit transgresser ces règles, et c'est le cas en secours maritime, ça peut arriver, il faut connaître le cadre. Parce que connaître le cadre, c'est connaître la limite, et connaître la limite, c'est connaître ce à quoi on s'expose quand on sort du cadre. Et connaître ce à quoi on s'expose, c'est maîtriser les risques. Et du coup, ça, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il faut non seulement connaître la règle, mais savoir pourquoi on le fait. Et ça c'est quelque chose que j'essayais qu'on essaye de se transmettre en flottille, c'est-à-dire bien connaître le cadre et savoir surtout ce qu'il y a derrière la règle, parce que c'est ce qui permettra de te sauver la vie si tu es en mauvaise posture lors d'une opération de sauvetage, même dans une opération tout simplement, hein, quand on se fait toucher, quand on a des senseurs qui sont en panne, quand on a un hélicoptère qui vole pas très bien, quand on a une mission à remplir, il faut être capable de la remplir dans les conditions du moment, et ça nécessite de temps en temps d'aller au-delà de ce qu'on nous a appris. Troisième chose, un entraînement réaliste et fréquent. Ça, j'y tenais beaucoup. Alors, c'est toujours compliqué de mener l'entraînement le plus réaliste possible, parce que ce qu'on attend d'un équipage en entraînement, c'est qu'il ramène pas la machine cassée systématiquement, bien au contraire. Et du coup, il faut que l'entraînement soit le plus réaliste possible, sans que ce soit dangereux pour les gens qui réalisent cet entraînement, et sans que ce soit dommageable pour la machine. Et il faut qu'il soit fréquent. Fréquent parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est un truc qui est fantastique que j'ai appris en tant que pilote, c'est que être pilote, c'est aussi intégrer les sensations. On dit un vieux pilote, il commence à piloter aux fesses, il développe ses capacités de proprioception, il arrive à piloter aux fesses, et en fait, le geste rassure. C'est-à-dire que plus on réalise de gestes d'entraînement, quel qu'il soit, plus lorsqu'il faut le réaliser dans des conditions difficiles, presque en dehors du cadre ou en dehors du cadre, eh bien, en fait, on est rassuré parce qu'on a déjà fait ce geste des centaines de fois, tous, tu vois, dans le cadre d'un treuillage difficile, le treuillis se dit, je l'ai déjà fait des centaines de fois. Et s'il n'intellectualise pas, son corps le sait. Son corps sait qu'il est capable de le faire parce qu'en fait, c'est le même geste. En fait, c'est hyper rassurant de dire que, en fait, c'est un treuillage dans des conditions qui sont peut-être très difficiles, mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est la même litanie quand on se passe, les commandes de l'avant à l'arrière. C'est la même litanie, c'est le même vocabulaire. Et en fait, ça rassure beaucoup. C'est le même geste. La pression n'est pas la même, l'environnement n'est pas la même, elle n'est pas le même, mais par contre, ce sont les mêmes gestes. Et en fait, le corps, le fait que ce soit les mêmes gestes, ça rassure beaucoup le corps et ça finit par rassurer l'esprit. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à se transcender, je pense, dans les moments difficiles.
Arriver à automatiser un petit peu tout un tas de comportements pour laisser de la ressource cognitive pour s'adapter à la situation. Quoi.
C'est non seulement ça, mais c'est aussi le fait, c'est aussi être rassuré par le fait que ce geste-là, cette litanie-là, elle nous rappelle des moments qu'on a réussi. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Je sais pas si tu vois, c'est même au-delà de la réussite de la gestuelle.
Là, c'est intéressant et ça peut être appliqué à pas mal d'autres choses, même en dehors de l'aéronautique.
Et t'as bien raison.
Alors maintenant, on va arriver à un moment un peu traditionnel dans l'expérience Shiban. Dans l'armée, on est très axé tradition, ici aussi, enfin on essaye en tout cas. C'est donc le moment anecdote. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, un ou des moments de vol qui t'ont marqué au-delà de ce que tu nous as déjà raconté jusqu'ici ?
Alors j'en ai deux, et les deux sont dans le cadre d'une mission de lutte contre le narcotrafic, et les deux sont assez complémentaires. La première, c'est pour montrer à quel point le métier d'officier de marine, de pilote de l'aéronaval est vaste. On était en exercice en mer des Caraïbes et on a été appelé pour relocaliser un voilier suspecté de transporter des produits stupéfiants du coup en direction des Açores. Il était dans l'océan Atlantique, il était sorti de la mer des Caraïbes. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait assez peu d'informations. En fait, sa dernière position datait de 48 heures. Et en 48 heures, on peut en faire du chemin même sur un voilier. Ça a l'air de rien, mais c'est pas forcément évident à retrouver. Et là, moi, j'aime beaucoup la voile. J'en ai fait partie des opportunités que j'ai saisies à l'école navale. J'en ai fait pas mal. Ce sont des copains qui m'ont appris. Et du coup, avec un autre copain voileux de la frégate, on a essayé de réfléchir à la position du voilier. Et donc, on a récupéré le vent, les grilles de vent des jours précédents. On a essayé d'étudier le bateau pour voir à quelle vitesse il pouvait naviguer en fonction de la force du vent et de la direction du vent. Et finalement, on a essayé de voir quel était le poids du bateau et on a essayé de savoir à peu près comment est-ce qu'il était susceptible de se déplacer. Le lendemain matin, du coup, on programme un vol d'hélicoptère et on décolle. Et une fois qu'on arrive dans la zone de patrouille, on tombe pile dessus. Donc ça, c'est la première satisfaction. Mmh. C'est que finalement, c'est un métier qui est assez complet. Et ça, c'est valable un peu tout le temps dans la vie professionnelle. C'est qu'il ne faut pas négliger, du coup, l'apport potentiel des connaissances que l'on développe dans le cadre privé. Et je parle à tous ceux qui sont des fanas d'aviation et pilotage. Je suis sûr que cette anecdote vous parle, puisque dans vos vies de tous les jours, vous vous rendez compte à quel point le fait que vous soyez pilote, sans doute, change la façon dont vous réalisez votre travail au quotidien. Une fois que, du coup, on a trouvé ce voilier, nous, on se repose et c'est l'équipe, du coup, qui est dépêché à bord du voilier, qui commence à fouiller, interroger le skipper, qui était un narcotrafiquant recherché par Interpol. Opposé à l'appontage, là, on a un problème sur un capteur de pression d'huile moteur. Donc, on n'avait plus de capteurs disponibles dans le lot d'autonomie, parce qu'on les avait déjà tous utilisés pendant la mission. Donc là, l'hélicoptère, il est ce qu'on appelle rouge, c'est-à-dire qu'il est indisponible pendant un certain temps. Et moi, je vais quand même proposer mes services au commandant du bateau en lui disant, ben moi, j'ai des compétences en voile, du coup, je vous propose que je participe à ramener le voilier. Et du coup, on constitue une petite équipe. Et puis, on est. Donc là, je change, j'enlève ma combinaison de vol, je mets un treillis, je prends un pistolet et je monte à bord du voilier et je me retrouve du coup à ramener le voilier. Et ma mission, c'était du coup d'essayer de trouver où était la cache où étaient cachés les produits stupéfiants. J'ai passé du coup 48 heures avec ça a duré 5 jours pour le ramener à Saint-Martin. Donc j'ai passé 5 jours avec un narcotrafiquant à essayer d'échanger, à essayer de trouver la cache. Donc c'est une expérience qui est assez incroyable parce que finalement on voit bien qu'à travers cette mission, eh bien, on peut être amené à la fois à réaliser un certain nombre de tâches en amont, pendant et après, et qu'on soupçonne pas forcément. La deuxième expérience, c'est toujours en mer des Caraïbes. Ça faisait plusieurs mois qu'on traquait le GOFAS et on n'avait pas réussi à en choper un. La faute aux renseignements, sans doute, on n'était pas forcément dans les bonnes zones. C'est pas une science exacte et c'est assez difficile. On était du coup en coopération avec des Américains et une nuit, alors que l'hélicoptère était indisponible, il avait de nouveau un problème et on n'avait pas la pièce. Du coup, moi, dans ces cas-là, je suis en général, enfin, j'étais à la passerelle parce que je conduisais le bateau. Voilà, ça fait partie de ma deuxième casquette, pilote d'hélico, mais également chef de car. J'entends du coup le renseignement qui nous indique qu'il y a un GOFAS qui est en train de partir du sud de la mer des Caraïbes à pleine vitesse. Et du coup, je fais mettre le bateau au bon cap, je le fais accélérer et on finit par me dire que le chef de détachement, parce que j'étais l'adjoint au chef de détachement, le chef de détachement me dit « Bon Thomas, change-toi vite, passe ton car, il faut que tu ailles dire au technicien qu'on décolle, on a la dérogation pour voler avec un voyant rouge allumé. » Voilà. Mmh. Donc on a la dérogation pour pouvoir voler avec une panne. Mmh. Je me précipite sur l'arrière, on décolle, nuit noire, on retrouve le GoFast. Et il y avait un avion de patrouille maritime en l'air, on prend contact avec lui et on trouve le GoFast qui est en effet qui a l'air énorme à la caméra et on met en place tout le dispositif. On arrive sur le GoFast, il veut pas s'arrêter. Du coup, on effectue un certain nombre de tirs pour qu'il s'arrête. Et ensuite, on fait intervenir l'équipe de commando qui appréhende le GoFast. Et on a eu de la chance ce soir-là parce qu'on a capturé le plus gros GoFast de la mer des Caraïbes. Il faisait 55 pieds. Il était quand même assez gros et il transportait 2,7 tonnes de cocaïne pure. Voilà. Et c'était un moment d'une adrénaline incroyable. Je me souviens encore, c'était ma première opération, j'étais copilote. Et au moment où on se dit, allez, cette fois-ci on y va, le positionnement des moyens est cohérent pour que ça finisse bien, la frégate, l'embarcation au commando, on fonce à quelques mètres de hauteur par nuit noire en direction du Gophas. Moi, je sens l'adrénaline monter et je me dis, ça y est, j'y suis. Et en fait, après toutes ces années d'apprentissage jusqu'à ma qualification de copilote, ça y est, je suis dans l'action. Et ce sont des moments qui sont extraordinaires. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et d'un autre côté, on est envahi par l'adrénaline. Et après, tout se déroule très vite. Et puis c'est assez marrant parce que même si on est pris par le caractère extraordinaire de l'expérience, finalement, les gestes, l'automatisme, les procédures reviennent. C'est ce qui concourt d'ailleurs à nous protéger tous, puisqu'en fait, tout déroule très naturellement, de façon très sereine dans le cockpit, alors qu'on est tous à 200%, voilà, complètement transcendés par l'adrénaline qui irrigue nos veines. Et donc, une expérience extrêmement forte. Parce que quand ça termine en succès, c'est quand même agréable et c'est toujours le cas.
C'est vraiment un travail où au final, tu es très proche de l'action, peut-être plus que n'importe quel autre métier de pilote, et avec plein de tâches annexes, donc c'est très complet. En fait, je me rends compte au fur et à mesure qu'on en discute,
ouais.
Ça doit être passionnant.
Ouais, et puis ce qui est bien, c'est que quand on est pilote d'hélico, on est au contact. C'est-à-dire que, en fait, moi je trouve que ça fait partie des métiers qui sont extrêmement intéressants parce qu'en fait, on est dans la réalité. On touche une réalité, on la vit pas par procuration à travers un écran, et puis on voit les choses, les narcotrafiquants, on les voit dans les yeux, les pirates, on les voit les yeux dans les yeux, quand on fait du sauvetage en mer, eh bien, pareil, les naufragés, on les a au bout du treuil, on les ramène jusqu'à l'hôpital, on leur parle, on les sort, on les rassure dans l'hélicoptère, etc. Et je trouve que réaliser un métier concret, c'est une véritable chance, et si je peux donner un conseil, du coup, à ceux qui nous écoutent, ça vaut le coup de réaliser un métier concret, un métier qui soit en prise avec le réel.
Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parle d'un aspect un peu plus personnel. J'aimerais qu'on parle de la place de la vie privée dans un travail aussi prenant. Combien de temps est-ce que tu passes en mer par an? Comment tu gères cette distance avec tes proches? Et est-ce que ça a déjà été problématique pour toi? Je parle de l'éloignement. Et comment tu gères tout ça? Voilà.
Ouais, c'est une vraie question. C'est une question qui est fondamentale. Surtout que quand on s'engage, on est tout feu tout flamme à 20 ans et on est prêt à tous les sacrifices pour réussir professionnellement, pour aller jusqu'au bout de son rêve d'enfant. Et au fur et à mesure, eh bien, on finit par se marier, par avoir des enfants. Et il y a des choses qui étaient très faciles au début, qui deviennent plus compliquées une fois qu'il faut composer avec sa vie familiale. Moi, je vais raconter une expérience et en fait, elle est assez révélatrice. Quand j'ai eu mon premier enfant, le jour du terme, c'était censé être 4 jours avant mon déploiement en mer pour une durée de 3 mois. Et au fur et à mesure qu'on se rapprochait du terme, la maternité nous disait à ma femme et à moi qu'ils ne pouvaient pas nous déclencher parce qu'ils n'avaient pas la place. Et d'un autre côté, la mission avançait. C'est-à-dire que, et du coup, on était dans un état de stress absolu. Et finalement, j'ai pu voir mon fils, mais j'ai assisté à la naissance, mais je suis parti au bout de 24 heures. Ça a été un moment assez douloureux. Parce qu'on a envie d'en profiter quand on est jeune papa, parce qu'on n'a pas envie de laisser sa femme toute seule. Et parce que ça a été douloureux parce qu'en fait, j'étais nulle part pendant une semaine. Après la maternité, je suis allé sur la base aéronavale, j'ai démarré l'hélicoptère, je suis parti avec mon équipe sur le bateau, sur la frégate, et je me suis éloigné, on a rejoint la zone d'opération, et finalement je me suis rendu compte au bout d'une semaine que j'avais pas vraiment fait le shift, que j'étais encore à la maternité. Et c'est lors d'un appontage de nuit où ma présentation était pas très propre que là je me suis dit, Thomas, il faut que t'arrêtes tout de suite. Il faut que tu arrêtes tout de suite, il faut que tu arrêtes d'être à deux endroits simultanément, à la maternité et sur ta frégate. Maintenant, c'est boulot à 100% parce que c'est des métiers dans lesquels l'approximation n'est pas tolérée. Voilà, parce que l'approximation est dangereuse et du coup, c'est dangereux d'être à deux endroits différents. Alors, comment on vit l'éloignement? Alors, l'éloignement, l'inconvénient, c'est qu'il y a plus de bateaux que d'hélicoptères, donc quand on fait un rapide calcul, c'est-à-dire qu'on navigue un peu plus que ceux qui sont embarqués sur les frégates, enfin, que les marins qui sont à l'année affectés sur les frégates. Donc on passe d'un bateau à l'autre. Alors c'est aussi une richesse parce qu'on rencontre beaucoup d'équipages, on fait beaucoup de missions, et l'inconvénient c'est qu'on est souvent absent. Moi j'ai été absent pendant 6 ans à hauteur entre 6 mois et 7 mois par an. Comment est-ce qu'on gère cette absence? Eh bien, moi, je trouve que vivre dans l'absence, alors c'est vivre un peu à contre-courant, parce qu'on est dans une société de l'hyper-présence avec les réseaux sociaux. Il faut réagir dans la minute, on est tout le temps hyper connecté. Et en fait, vivre dans l'absence, c'est un monde nouveau, surtout pour les générations qui sont nées avec le portable à la main, ce qui n'est pas forcément mon cas, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis encore très jeune, je n'ai que 38 ans, mais je ne suis pas né avec un portable à la main. Et du coup, ça fait grandir. Parce que vivre à distance, eh bien, quand on a son conjoint au téléphone, eh bien, il faut donner le meilleur de soi-même, pas tourner en rond autour des difficultés quotidiennes, mais il faut apprendre à du coup préserver l'autre. Et je trouve que ça fait grandir. Et dans la vie, il faut toujours rechercher les chemins qui font grandir, et la distance fait grandir. J'en suis intimement persuadé. Mmh. Après, ça s'est bien fait, hein, parce que les moyennes d'âge sur les frégates sont assez jeunes. Elles sont de 26 ans. Et donc, en fait, on navigue à un certain moment. Après, moi, au bout de 6 ans, après, je suis passé dans l'état-major de la flottille, chef opération, commandant second, puis commandant. Et là, j'avais d'autres responsabilités, des responsabilités d'instructeur, des responsabilités de cadre et des responsabilités dans le cadre du secours en mer et de l'alerte de contre-terrorisme maritime. Du coup, j'ai pu embarquer, à part très ponctuellement pour entraîner mes équipages. Mais pas plus long qu'une semaine. Mmh. Mais par contre, j'étais d'alerte à une heure un tiers de l'année. Voilà. Okay. Voilà, c'est la contrepartie, mais ça, c'est plus facile à vivre. Bon, moi je te cache pas, hein, que ma femme est assez contente que je sois à l'école cette année et qu'on puisse avoir une vie qui ressemble à la vie de monsieur et madame tout le monde, même si moi, si c'était à choisir, j'aurais adoré passer ma vie en flottille opérationnelle. Voilà. Mmh.
J'imagine que oui, lâcher un job comme ça, bon, même si on le lâche qu'à moitié, ça doit être un peu frustrant professionnellement parlant.
C'est le problème des métiers passion, voilà. Mmh. Mais ce qui est assez rassurant dans la vie, c'est que les aspirations qu'on a à 25 ans ne sont pas les mêmes que l'on nourrit à 30 ans ou à 40 ans. Donc, en fait, au fur et à mesure, le centre de gravité évolue un peu. Il évolue différemment, hein. On peut rester passionné, mais exprimer sa passion d'une façon différente. Voilà. Mmh. C'est ce que je fais aujourd'hui, hein, d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup parler de ce métier-là. Pas pour parler de moi, mais pour essayer de faire vivre par procuration des aventures à d'autres, et puis pour éventuellement susciter ou confirmer des vocations, parce que cette vocation-là, elle est sublime. Mmh.
Eh bien, je pense que tous les auditeurs t'en remercient. alors, tu viens de l'évoquer, j'en avais parlé un petit peu en introduction aussi. Tu es de retour sur les bancs de l'école, entre guillemets. Quand on a fait naval, la carrière opérationnelle a normalement une vie limitée. Ensuite, il faut se former à prendre des rôles plus à responsabilité, ce que tu as déjà fait en étant commandant de ta flottille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du panel de possibilités qu'on a quand on a fait l'école navale et de celles que toi, tu as choisies?
En gros, pour un officier qui a fait l'école navale, il y a deux possibilités de carrière. Donc, on commence tous de la même façon, c'est-à-dire qu'on a en gros 15 ans d'expérience opérationnelle. Voilà, entre 11 et 15 ans d'expérience opérationnelle, où là, on est sur les bateaux, on est dans les commandos, sur les sous-marins, dans les avions de chasse, dans les hélicoptères, dans les avions de patrouille maritime. Et ensuite, il y a un choix, quand on a entre 35 et 45 ans, en gros, soit on reste spécialisé, spécialisé dans l'aéronautique ou spécialisé dans une autre composante. Et à ce moment-là, on sert au sein des états-majors spécialisés, ou alors on continue une carrière généraliste. Puisque les officiers qui sont issus de l'école navale du coup ont vocation à embrasser une carrière généraliste, c'est-à-dire une carrière assez touche-à-tout, et c'est la vocation justement de l'école de guerre qui entretient en fait la particularité généraliste du cursus. Donc, là, je suis actuellement à l'école de guerre. C'est une école. Alors, je l'avais présenté comme un exécutif MBA, mais en fait, c'est plutôt comme un doctorat. Puisque la formule ressemble à l'exécutive MBA, mais le diplôme obtenu est l'équivalent d'un doctorat, où on étudie la géopolitique, l'histoire militaire. Il y a un certain nombre de cours qui sont donnés dans le domaine du développement personnel, c'est-à-dire qu'on apprend à se connaître, et en se connaissant mieux, ben, on apprend à connaître les autres, et comment est-ce qu'on peut diriger une équipe qui est composée de gens qui sont différents, qui ont un bagage culturel, socio-professionnel, différents. On mène un certain nombre de projets aussi. On est inséré dans des comités qui nous permettent d'approfondir des domaines que l'on souhaite développer, que ce soit le rapport entre l'armée et la nation, que ce soit l'innovation, que ce soit le rapport interculturel entre, par exemple, l'Europe et l'Afrique. Etc. Il y a des copains de promotion qui ont publié un atlas de géopolitique cette année. Moi, je me suis lancé dans un projet solidaire qui vise à relier Toulon à Calvi en kayak avec un blessé pour porter la cause des blessés de guerre. Donc, on va se relayer en kayak pendant 48 heures pour franchir les 240 km qui séparent la Corse du continent. Donc voilà, chacun, c'est un peu comme une auberge espagnole, chacun se nourrit de ce dont il a besoin pour continuer à s'enrichir. Mmh. Voilà, c'est une année assez intéressante, puis ça permet aussi, c'est assez paradoxal, mais en fait, je me présentais tout à l'heure comme quelqu'un qui avait fait des études assez longues, même si comme un docteur en aéronautique, parce que j'ai finalement, pour réussir, entre le moment où j'ai passé mon bac et le moment où j'ai obtenu mon macaron de pilote, il y a eu 9 ans, se sont écoulés 9 ans. Eh bien, en fait, quand on fait des études longues, on a hâte d'être employé. Et finalement, ça fait du bien de revenir sur les bancs de l'école parce que ça permet de faire un bilan sur ce qu'on a fait. Ça permet de réfléchir à l'endroit où on veut aller, à revoir ses objectifs. Et ça permet aussi de développer d'autres compétences parce qu'on se rend compte que quand on a embrassé une vie professionnelle, eh bien, on est formaté par notre vie professionnelle. Ça fait du bien aussi de se mettre un peu dans l'inconfort en allant chercher des domaines dans lesquels on n'est pas forcément expert. Voilà.
Et donc la suite pour toi, ça ressemblerait à quoi une fois que tu as fini cette formation ?
Eh bien, pour les officiers pilotes qui ont réussi l'école de guerre, ils peuvent soit repartir pour commander une frégate ou un porte-hélicoptère, ou aller en état-major. Donc là, moi, dans un premier temps, à court terme, je vais rejoindre un état-major. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les états-majors, c'est un peu un terme fourre-tout. Il faut savoir qu'en fait, il y a des états-majors qui existent aussi. Enfin, il y a les équivalents des états-majors existent aussi dans les grandes entreprises. Hein. C'est le back-office, nous on a un état-major qui est spécialisé dans les ressources humaines, donc qui définit des politiques de ressources humaines. Il y a un état-major opérationnel, donc qui s'occupe de la planification des opérations. On a des états-majors organiques qui s'occupent de la doctrine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise telle arme, comment est-ce qu'aujourd'hui on fait la guerre avec les moyens modernes, etc., etc. Donc les domaines de spécialité de chacun des états-majors sont nombreux, et du coup il y en a qui font aussi de la finance, il y en a qui font de la prospective, il y en a qui s'occupent des futurs avions de chasse, du futur hélicoptère qui va remplacer le panthère, le dauphin, mais aussi la gazelle et le fennec, qu'on appelle l'hélicoptère interarmé léger, ou le guépard. Donc en fait, les métiers sont nombreux, et c'est ça qui est assez passionnant. C'est que finalement, on peut avoir une carrière qui comporte de nombreux volets, une carrière à tiroir. Voilà. Et ça correspond bien à l'évolution des aspirations que l'on peut avoir au cours de sa vie professionnelle également. Voilà.
L'état-major, on pourrait résumer ça un petit peu comme étant la partie plus management peut-être des armées ou...
Ouais, c'est ça, en fait, c'est ou pilotage macroscopique. Voilà. Okay. On a les unités qui réalisent des missions et puis et elles sont encadrées par des états-majors qui définissent soit le contour de la doctrine, soit qui les emploient sur les théâtres d'opération. On a des états-majors opérationnels, des commandements opérationnels. Voilà. Voilà, il y en a qui des états-majors qui s'occupent de la mise en condition opérationnelle, c'est-à-dire de l'entretien du matériel, qui gèrent ce genre de contrat avec les industriels.
Et alors, désolé d'insister là-dessus, parce que pour moi, c'est des termes qui sont un petit peu ésotériques, mais donc état-major, maintenant je comprends mieux ce que c'est, et tu as parlé de doctrine, qu'est-ce que c'est plus concrètement ?
La doctrine, c'est par exemple, il y en a qui travaillent sur la façon dont on peut... utiliser les nouvelles armes. En fait, le matériel évolue en permanence et du coup, il faut écrire des doctrines, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se sert de ce matériel. Je vais prendre un exemple. Dans le futur hélicoptère interarmé léger, normalement, il est prévu qu'il ait un missile anti-navire. C'est-à-dire qu'il va dépasser le cadre, les opportunités que nous offre le Panther, parce que lui va être capable de tirer sur une cible. Et bien du coup, comment est-ce qu'on se prépare à ça? Quelle va être la doctrine? Qui va tirer dans quelles conditions? Comment est-ce que et ça, et c'est ce genre de choses que réfléchissent les états-majors. Et du coup, comment est-ce qu'il va falloir dimensionner les flottilles qui vont recevoir ce genre d'hélicoptères? On va avoir des drones aussi dans la marine, des petits hélicoptères autonomes, enfin pas autonomes, des petits hélicoptères téléopérés, donc des drones qui vont être capables d'être opérés à partir des frégates. Comment est-ce qu'on les utilise? Quel est leur champ d'application? Comment est-ce qu'on réalise la ségrégation avec les hélicoptères? Comment est-ce que, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont complémentaires? Comment est-ce qu'on va former les techniciens? Quels vont être leur cursus de carrière, des télépilotes, etc., etc. Donc en fait, il y a toute une dynamique. Quand il y a un matériel qui arrive, il faut l'inscrire dans une dynamique d'emploi et il faut également qu'il soit porté par des hommes et du coup, il faut définir le cursus de ces hommes-là. Voilà. Mmh. Je ne sais pas si je suis plus clair, mais...
Pour moi, en tout cas, c'est plus clair. J'espère que ça le sera aussi pour l'auditeur.
Parce que c'est un terme ésotérique pour moi aussi, hein, l'état-major.
ça me rassure alors. Ah, plus d'1h30 déjà. Bon, le temps passe vite. On arrive donc à la fin de cette interview. Et je te laisse la parole pour un mot de la fin, si tu le souhaites, un message que tu souhaiterais faire passer, un conseil, voilà.
Eh bien, je me rends compte que le temps passe vite. Moi, j'ai quitté le commandement de mon unité de la flottille 36F en juin 2021. Donc pour moi, le rotor s'est arrêté. Je s'est passé hyper vite et c'est marrant parce que ça me ramène à ma condition précédente, donc avant que j'embrasse les carrières de pilote, où je reviens souvent à ces meetings et à cette admiration que je vouais à la communauté de pilotes. Et quand je regardais du coup les pilotes de l'autre côté de la barrière, je me disais que ça me paraissait impossible. Je leur posais à chaque fois la question du secret pour y arriver. Et finalement, je me rends compte que c'est faisable. C'est faisable et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un parcours aéronautique très riche. C'est pas de mon fait, hein. J'ai eu de la chance. Systématiquement, il y a des opportunités qui se sont ouvertes à moi. Et du coup, j'ai deux conseils à donner aux émetteurs. Le premier, c'est d'aller au bout de ses rêves. Je pense que c'est possible. C'est largement possible. Et il y aura toujours des gens qui vous diront que c'est impossible. Mais il faut, à force de travail et de volonté, on y arrive vraiment, vraiment. Et c'est à la portée de tout le monde. La preuve, c'est que moi, je suis monsieur tout le monde. Enfin, j'ai rien de particulier. Et pourtant, j'ai réussi à réaliser mon rêve de gosse. Donc, allez-y, foncez. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est pas fait pour vous, bien au contraire, ça doit vous motiver davantage. Voilà.
Eh ben, merci pour ce message inspirant et puis pour toute cette interview. Moi, je me suis régalé. Dans la marine, au début, on a du mal à penser qu'il y a des avions, mais il y a aussi des hélicoptères et c'était l'occasion d'en parler sur le podcast. Donc merci beaucoup, Thomas. Bon courage pour tes cours, pour ce retour sur les bancs de l'école et puis pour le reste de ta carrière.
Ben merci beaucoup Sébastien, merci de m'avoir offert cette tribune. Je tenais vraiment à vous communiquer ma passion pour l'aéronautique, qui est une belle passion.
Je pense que c'est bien passé, merci. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shiban. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur les réseaux sociaux, de nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit, et surtout, et c'est vachement important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Cela nous permet de faire plein de choses.